Bon midi, la gang! Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission En Jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Comme à l'habitude, du lundi au jeudi, on va faire le caucus avec Antonine Iaccarini. Aujourd'hui, on va revenir sur ce match canadien. Êtes-vous déprimé? Êtes-vous découragé? Hey, 25 lancés dans les 7 dernières périodes. Le Canadien qui échappe un deuxième match de suite en prolongation. 3 à 2, c'est maintenant 2 à 1 pour les Hurricanes de la Caroline dans cette série.
T'es pas censé être rendu un Canadien, Jeff, parce que t'as l'air bien content de dire ça. Vous êtes découragé, hein, oui.
Je suis rendu un Canadien. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ben, moi, j'ai certains doutes, là, présentement.
Mais c'est juste que j'apprécie énormément le hockey, puis je dois t'avouer que j'apprécie beaucoup de la façon que les Hurricanes de la Caroline jouent énormément de pression. Les attaquants en repli défensif sont incroyables. Je faisais remarquer ça à mon Edou hier en regardant le match. Ça me permet de dire, tu sais, quand papa coach, puis il dit, c'est repli défensif, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Là.
C'est un bon exemple.
Exactement. Logan Stankoven, hier, quand il s'est replié, il a levé le bâton avec Suzuki, il est reparti avec la rondelle. J'ai dit, moi, Edou, c'est en plein ça. Mais je peux pas me plaindre, Edou, honnêtement, c'est un excellent attaquant défensif. Travaille très, très fort sur 200 pieds de la patinoire. Son père est bien fier de lui.
Mais tu sais... Pour vrai, autant que j'aime le jeu des Hurricanes, autant que ça fait des games plates à regarder, j'ai envie. Tu sais, c'est du beau hockey, mais...
Hey, on en parlera avec Alex Laramie tantôt, mais je suis tellement pas d'accord avec toi.
Ah ouais, OK.
Hey, moi, j'adore le style de Hurricane, la relance rapide, des actions.
Non, mais quand t'es fan
de
Hurricane, ça doit être incroyable, mais quand t'es fan de l'autre équipe, c'est un peu plus plat.
Parce que c'est aux Canadiens à mieux jouer.
Oui, oui, non, c'est ça.
Canadiens 25 tirs au but, c'est eux qui sont à blâmer, pas les Hurricanes. C'est le Canadien présentement qui nous donne du hockey plate.
Ouais, puis c'est pas facile. On pourra en parler plus en détail tout à l'heure, là, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir se lever
ben oui.
dans le prochain match.
Je suis déçu parce que depuis que j'ai dit que j'étais partisan du Canadien, ils sont 0 victoire et 2 revers.
Tu portes malheur.
Ben, c'est ça, tu sais. Je les ai tellement haïs pendant des années que quand je me range derrière eux, ils perdent.
Perdre.
Fait que là, tu sais, va-tu falloir que je continue à prendre pour eux autres ou non?
Ben je pense que
pas
tu devrais arrêter.
Ouais, exact. Hein? Décroche, débarque du train vert.
Tu nous portes
d'un
malheur.
D'un coup que ça marche. Bon. Vas-y, dis-le. Je veux t'entendre le dire.
Il faut que je débarque du train.
Dis-je, c'est beau, je prends plus pour les Canadiens, go.
Ben non, je les aime maintenant.
Arrête!
On a jusqu'à demain pour lui convaincre de débarquer du train.
J'aime le Canadien maintenant. Oh, texto qui vient de rentrer. Le Canadien ne tire pas au but. C'est un jeu de possession et c'est comme ça depuis le début de la saison. Un peu comme quand on joue à 3 contre 3 de hockey, tellement d'accord. Visiblement, ça fonctionne quand tu as la 5e ou la 6e attaque de la Ligue. Non, les Hurricanes sont vraiment bons. Ah, Serge qui m'écrit « Garde le cap, Jeff ». On veut que je garde le cap du côté du
Canadien. Ça, c'est un fan des Nordiques.
D'après moi, oui. D'après moi, Serge m'a déjà écrit « Fais pas ça ».
Ah, OK.
Ah, j'adore. Mais tant qu'à parler du Canadien, aussi bien donner l'indice immédiatement pour ce superbe concours. Est-ce que vous allez être parmi les tout près de 22 000 spectateurs présents au Centre Bell demain soir? Le match se déroule à 20 h. Hey, c'est tard, 20 h quand il y a une prolongation, oui. Je manque de sommeil.
J'ai manqué à la fin de la game hier.
Bye bye.
Ah ouais.
Je me suis endormi bien raide.
Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière. Ah, c'est peut-être ça que je vais faire, par exemple, mercredi. Je vais venir de faire mon cardio. Je vais peut-être arrêter au Chaloux puis je vais me prendre une petite bière. Question de m'endormir dans le divan puis pas toffer trop longtemps. Ça pourrait être une bonne idée. Hein? Parce que c'est 1000 sortes de bières chez Chaloux. Pour tous les goûts de la micro d'exception, la bière de soif parfaite, Beauport, Saint-Émile, Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. Bon, on a donné un indice ce matin à 7h55. On en donne un aujourd'hui à midi. Et Gravel dans le retour, ça va être 16h pile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est à 17h ce soir qu'on fait tirer le nom du gagnant ou de la gagnante qui va se mériter sa paire de billets pour le match numéro 4. Allez-vous assister au dernier match du Canadien de Montréal au Centre Bell? Ou allez-vous assister à la renaissance? Écoute bien ça, Mathias, de notre CH! De notre Canadien, de nos glorieux, de notre sainte planète.
Mais on perd depuis que depuis que tu fais partie du nôtre, là, on perd, Jeff. Là.
Allez-vous!
Il va falloir sortir du nôtre.
Portez le flambeau bien haut en plein Centre Bell mercredi, c'est votre chance. Et l'indice d'aujourd'hui, ouf! Ouf, c'est un joueur qui a eu de la misère. Slavkovski. Juraj Slafovski.
Peux-tu l'appeler, s'il te plaît?
Vous l'écrivez S-L-A-F-K-O-V-S-K-Y. Je le répète parce qu'on dirait un bingo. S-L-A-F-K-O-V-S-K-Y. Vous allez inscrire Slafovski au blvd.fm dans la section concours et vous allez peut-être gagner tout à l'heure, à 17h, une paire de billets pour le match numéro 4 à Montréal et voir peut-être plus de 12 lancés dans un match, ce qui serait exceptionnel.
Mais on va l'espérer, du moins, si on veut gagner.
Pour nos Canadiens.
Denis a dit qu'il...
Non glorieux.
Denis, là, en plus, tu commences à mettre l'emphase sur l'accent sur le
«
notre ».
Ouais. Je fais partie de votre gang.
Denis a dit que ça allait peut-être être à 15h30, l'indice. 15h30,
peut-être
16h.
À 15h30.
Donc, écoutez dans ces environs-là, si vous voulez avoir le dernier indice, parce que c'est le dernier sprint aujourd'hui pour participer à ce beau concours-là.
Exactement. Donc, vous allez comprendre, on parle avec Alex Laramé. On va parler de Révolution tranquille aussi avec Rémi Villemur. On est prêt pour un caucus avec Antonine Iaccarini. Mais avant, Mathias, quelques manchettes.
Oui, juste commencer avec Stephen Guilbeault, l'ancien ministre de l'Environnement sous le gouvernement Trudeau, qui envisagerait de démissionner du caucus libéral. C'est comme pas vraiment étonnant. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il soit encore dans le caucus libéral. Je vous le rappelle, là, Stephen Guilbeault qui a multiplié ses sorties contre le gouvernement Carney, qui est son propre gouvernement, notamment sur le plan environnemental. Mark Carney qui a abandonné plusieurs mesures environnementales qui avaient été mises en place sous Trudeau. Un nouvel engagement d'oléoduc avec l'Ouest canadien en Alberta également, ça déplut à Stephen Guilbeault. C'est quatre sources du gouvernement fédéral qui ont soutenu au réseau de télévision anglophone TV News, la nouvelle ce matin. On dit que la décision n'est pas prise à 100%, mais que ça se pourrait très bien qu'il devienne un élu indépendant, et ce, dès cette semaine. Le gouvernement Fréchette planche, en fait, pourrait mettre en place un projet de loi visant à interdire la vente des boissons énergisantes caféinées aux 16 ans et moins. Donc, ça fait du bruit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. En fait, notamment depuis la mort malheureuse de Zachary Miron, âgé de 15 ans, en janvier 2024 dernier. Lui qui avait consommé une Red Bull, puis que ça a comme eu un effet avec son médicament pour son TDAH qui a créé un arrêt cardiaque et qui a mené à sa mort. La loi qui pourrait d'ailleurs s'appeler loi Zachary Miron. Les différents partis qui seront appelés à une rencontre ce lundi pour oui ou non donner leur feu vert. Et si tous les partis donnent leur feu vert pour le projet de loi qui ciblerait vraiment uniquement l'interdiction de la vente aux 16 ans et moins, on pourrait peut-être voir ce projet de loi-là être adopté d'ici la fin de la séance de l'Assemblée nationale. Là, on arrête de siéger le 12 juin. Et je termine avec une enquête qui est présentement en cours pour savoir qui a fait fuiter le fameux courriel du ministre des Finances, je vous rappelle. Courriel qui a été envoyé en début du mois, qui mettait en garde Christine Fréchette, qui avait une enveloppe allouée pour ses annonces, puis qu'on commençait du côté du ministre des Finances à s'inquiéter du nombre d'annonces prévues du côté de Christine Fréchette, qu'on s'inquiétait qu'elle dépasse le budget. Du côté de Christine Fréchette, hier, sur les ondes d'LCN, on a confirmé qu'une enquête est en cours sur le plan administratif pour déterminer d'où provient la fuite. Il y a déjà eu un congédiement dans un événement similaire qui a eu lieu dans le passé. Elle s'est même fait questionner à savoir si la fuite pourrait provenir du ministre lui-même, puis elle n'a pas écarté la possibilité immédiatement.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini dans Le Caucus, c'est de midi à 12h30, du lundi au jeudi, sur les ondes de Boulevard 102.1. Disponible également via notre web radio blvd.fm et via notre application BLVD 102.1, disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Anto, avant de commencer, donne-moi deux secondes, OK? J'ai quelque chose à faire.
Ah.
Bon.
Jeff?
Jess, c'est notre technicien à l'informatique. Peux-tu me retrouver, c'est qui a laissé planer le courriel?
La chasse aux sorcières.
Tu vas mener l'enquête pour la première ministre?
Ben là, c'est parce que là, c'était moi là. Ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est qui a laissé fuiter la chose?
Ben là, Jeff, hier, c'est exactement ce que je te disais.
C'est inquiétant!
Parce que ce que je vous ai dit hier, c'est qu'un ministre des Finances qui écrit au cabinet du premier ministre pour dire qu'il faudrait slacker les dépenses, les chums, c'est un mardi. Là. Ça arrive tout
le temps. C'est ça. C'est sa job.
Mais, je vous disais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qui envoie cette balle courbe-là à la première ministre. Oui. Parce que c'est chien. On va se dire la vérité. Ça allait bien. Il y avait une bonne vibe autour de Mme Fréchette. 9 points dans les sondages. Et là, il y a quelqu'un quelque part qui se dit « Oh, ça me tente de lui nuire. »
Oui, il y a quelqu'un quelque part à la CAQ qui se dit...
Ah, peut-être pas à la CAQ, attention.
Hein? Mais comment ça pourrait aller dans les mains de qui, sinon?
Bon. OK, moi, là, des fuites là, en politique, là, j'en ai vécu beaucoup.
Okay,
des fois,
hey,
on
vas-y.
Disait en joke...
Hey, explique-nous le procédé de la fuite.
Bon, on disait en joke des fois que quand on avait un caucus du PQ, par exemple, on disait Denis Lessard est caché entre la tapisserie et le mur, parce qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose, il savait. Puis là, ça sortait dans un article dans le journal.
Mais pourtant, mettiez-vous vos cellulaires dans une petite pochette en rentrant?
Ça, hey, c'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'ai commencé en politique... On avait ça. Dans l'entrée du caucus ou du conseil des ministres, il y avait un petit meuble en bois. Puis là, les députés devaient mettre leur téléphone dedans. C'était le WIP qui gérait ça. À un moment donné, ça s'est perdu, cette affaire-là. Okay. Puis de toute façon, je veux dire, t'as beau appeler Denis Lessard tout de suite après le caucus dans ton bureau. Il n'y a personne qui va le savoir.
Non, c'est ça.
Fait que ça changeait pas grand-chose. Quand il y a une fuite, mettons, je me lève le matin, là, je suis directrice des communications du PQ. Là, je me lève le matin, je regarde dans le journal, puis il y a quelque chose qui était supposé d'être discuté en privé qui se ramasse dans un article. La première réaction qu'on a, c'est qui a intérêt, qui a un mobile hyper stratégique pour avoir mis cette information dans l'espace public, n'est-ce pas?
Ben là, celui qui a l'intérêt d'avoir fait ça pour Christine Fréchette, c'est le PQ.
Hein? Ben non, ben là, je pense pas que le PQ ait reçu le courriel. Mais, mettons, on se dit qu'il y a des staffers politiques qui l'ont eu, il y a peut-être des fonctionnaires. Puis là, il y a peut-être, évidemment, des choses qu'on sait pas.
Fonctionnaires.
Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours la personne qui a le plus intérêt qui est le coupable. Souvent, c'est des gens qui font des erreurs ou du monde qui se trouve intéressant. Okay? Des gens qui ont des informations, puis qu'ils ont besoin de les dire à quelqu'un.
Fait qui a le goût d'être soudainement, c'est ça?
Ça peut être n'importe qui. Parce que si tu savais le nombre de personnes qui se trouvent intéressantes...
Fait que là, c'est tough.
Ben, honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire pour le trouver. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a un employé politique d'un cabinet qui donnait de l'information, effectivement, à Thomas Gerbet aussi. Mm-hmm. Ils se sont rendus compte que c'est parce que le directeur de cabinet faisait les rencontres de DIRCAB. Tu sais, à tous les mardis soirs, il y a une rencontre du directeur de cabinet du premier ministre avec tous les directeurs de cabinet de tous les ministres, OK?
OK.
Bien, il y en avait un, il faisait ça à porte ouverte, lui, dans son cabinet. OK, il y avait un conseiller politique qui entendait tout.
C'est malade.
Qui appelait des journalistes pour leur dire « Pourquoi faire? Je le sais pas. Pour se rendre intéressant? » Sûrement.
Sûrement.
Puis tu sais, dans la vie...
Regardez-moi, je brasse des grosses affaires.
Un, je brasse des grosses affaires. Ou deux, après la politique, moi, les gens vont m'en devoir. Tu sais, tu sais jamais les intérêts personnels de quelqu'un. Tu sais, pour dire que...
Mais
si
là, tu recherches plus... Tu recherches dans la CAQ? Tu recherches-tu dans un pro de Drainville?
C'est possible. Tout
dans
est possible.
Un pro Fréchette frustrée?
Ça peut être un fonctionnaire aussi. Puis je veux pas lancer là, des accusations, mais ça peut être un fonctionnaire qui aime pas beaucoup la CAQ. Les fonctionnaires, c'est pas des gens qui sont tous nommés par le gouvernement en place.
Mais comment il fait pour avoir ce courriel-là? Lui, c'est quand même bien un courriel d'Éric Girard, mais pas 8 personnes en copie conforme.
Non, mais attends, après, tu peux transférer ça. Il y a une personne qui peut transférer à quelqu'un. Tu sais, un secret, c'est quelque chose que tu dis à une personne à la fois. Puis la dernière personne qui a reçu le secret, souvent, elle sent moins liée.
C'est le jeu du téléphone.
Ben, c'est le jeu du téléphone. Mais le message, le problème, c'est qu'il s'est rendu intégralement à Thomas Gerbet. Moi, je le disais en fin de semaine, quand j'ai vu que quelqu'un y avait fait ça, je me disais, si j'étais Christine Fréchette, je serais en beau tas.
Mm-hmm.
Je ferais une chasse aux sorcières. Pour vrai, je le ferais. C'est qui prend des morceaux de discussion
pour
envoyer ça à des journalistes? T'sais, dans la vie, il y a une loi d'accès à l'information, des choses qui sont rendues publiques. Mais envoyer des morceaux de discussion interne, ça informe pas toujours bien les gens, puis c'est un acte de déloyauté, on s'entend.
Puis elle a pas le choix de le faire, ça va asseoir son autorité.
Le problème, c'est que moi, je le ferais dans la plus grande discrétion à sa place, et le jour où le couperet tombe, ma vengeance serait terrible, OK? Mais ça arriverait tout à coup. Ouais. Alors que là, elle a décidé d'être, vous allez dire, transparente, elle se fait poser la question, puis elle dit oui, il y a une enquête. Mais tu gagnes pas à ce jeu-là en politique. Tu gagneras jamais contre le droit de savoir, la liberté de presse, la transparence. Ça, c'est comme les grandes vertus que les gens prônent beaucoup. Puis quand t'es politicien, les gens déjà ont moins de sympathie à la base envers toi. Donc d'aller dire ça, je veux pas trouver que c'était une très bonne idée.
Ben non, parce que moi, ça m'a fait penser à cette personne-là.
Moi, ce qui m'inquiète depuis que j'ai vu l'article la semaine passée, Et c'est là que je voulais en venir tantôt. Je suis une employée de la FTQ Construction, j'ai accès à des informations privilégiées. Je les prends et je les donne à un journaliste ou une journaliste. Je me mets à risque.
Tu sais, ça me fait penser à Magali Picard.
Ben oui, Magali
c'est
Picard.
C'est pas drôle.
Qui, à parce la suite de révélations...
On chasse le lanceur d'alerte au lieu de régler la problématique.
Ben, encore faut-il qu'il y ait une problématique.
Oui, parce que ça, c'est pas un gros problème pour moi. Éric Jurard fait sa job, puis Christine Fréchette,
fait
sa bosse.
Fait sa job, puis c'est bien comme
ça. A le droit de l'écouter ou a le droit de zoter. Parce que là, je trouve ça drôle, là, moi, là. La chasse aux 250 millions. Hey, là, c'est pas 250, on est rendu à 336. Ouais, mais là, on va peut-être être à 370. Ouais, mais attendez, on a des transferts. Fait que là, finalement, on avait le droit à 360. Hey. On s'en sac-tu. C'est ben, elle, la bosse.
Ouais,
si elle a dit à Éric Girard, « Hey, mon homme, tu m'as réservé 250, là, mais moi, je vais te dire une affaire. Coupe-moi-en 500 millions de plus dans la fonction publique parce que moi, je vais dépenser 500 millions. » That's it.
Oui, mais en même temps, il fait son travail. Le problème, c'est que c'est des discussions normales.
Ben,
que
c'est
si
ça.
Tu prends juste un petit morceau puis tu l'envoies dans l'espace public, ça a l'air fou. Mais dans la vraie vie, il fait sa job.
Oui, mais la problématique, c'est bien plus François Legault qui a fait un budget avant que le chef soit élu.
Puis le fait qu'il ait fait une réserve dont on connaît le montant.
Ben exactement.
Ben là, toutes les annonces, on se dit, ben là, ça rentre-tu dans l'enveloppe, alors qu'un budget, c'est pas toujours une science exacte parce qu'on peut pas. On fait une planification des revenus et des dépenses, puis il y a des choses qui peuvent varier.
Ben, en plein
comme
ça, là.
Par contre, pour Mme Fréchette, ben. Tu sais, tu faisais le parallèle avec Magali Picard. C'est sûr que si tu aimais déjà un peu pas Christine Fréchette, tu dis, ben voyez. Elle s'en prend aux gens qui veulent mettre au grand jour la vérité. Et aussi, ben, ça vient renforcer cette ligne que les adversaires politiques n'arrêtent pas de marteler, qui est que Christine Fréchette égale François Legault,
ouais.
Que la CAQ dépense encore sans compter. Et d'ailleurs, hier soir, avant de m'endormir devant un game de hockey, j'ai été très surprise de voir la publicité du PQ.
Ben, justement.
Nouvelle pub. Ça a dû coûter une beurrée, les amis.
Ben, en heure de grande écoute, à TVA Sport, pendant le troisième match Hurricanes canadien, en deuxième période.
Une bonne partie du
budget, là. En deuxième période, là, pendant que le maximum de gens qui regardent.
Ben, ça a marché, en tout cas. Tout le monde l'a vu.
Ça a marché, puis on va l'écouter.
Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais.
Ouais,
pouvez-vous le changer?
Pain moisi un
peu. Pas de problème.
Ouais. Le jambon est gris, là, un petit peu. Là.
Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tout ce qu'on fait, c'est switcher les ingrédients de place dans le sandwich.
Avec le petit bruit, là.
Ouais.
C'est quoi, ça?
Ça? C'est du changement.
Promesse brisée,
bon.
Improvisation, gaspillage de fonds publics.
Je pense que ça
faut
va coller, cette affaire-là. Le sandwich de la CAQ.
C'est du génie.
C'est très bon.
Ah non, non, c'est du génie. Puis là, à ceux qui disent « Ah, c'est encore de la pub négative », c'est ça, la politique, là, les amis. Là. On s'attaque sur nos prises d'opposition. Là.
Puis c'est relax. Là. On n'a pas mis des images là, de Christine Fréchette là, en noir et blanc. Tu sais, quand on voit les pubs américaines ou du Parti conservateur du Canada.
Ben même Parti libéral. C'est ça que j'allais dire, les pubs au Canada. Le Parti libéral qui fait une pub sur les conservateurs. Les conservateurs sont contre l'avortement. Puis là, t'as toutes des images en noir. Ça, j'ai l'impression que ça énerve le monde. Mais une publicité comme ça, qui est bien faite...
Avec humour.
C'est ça, qui a un ton humoristique dedans. Écoute, moi, j'ai pas regardé ça en me disant encore, ah, c'est donc ben du négatif. J'étais comme, ah non, c'est bien pensé. On a innové, on n'a pas juste essayé d'être dramatique. Puis non, non,
c'est
une réflexion.
T'as un message qui est simple. C'est pas du changement, les amis. C'est la même CAQ que vous aviez.
Ah, c'est
j'ai reçu
du génie.
Beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. Je l'avais publié sur mes plateformes. J'avais demandé l'avis aux gens. Puis il y a une bonne partie des gens qui disent que c'est très bon. Puis il y a une autre partie qui dit que c'est de la pub négative. Il faut quand même se rappeler que c'est pas possible de plaire à tout le monde
ben
dans la vie. OK? Fait que moi, je pense que ça atteint la cible. Puis c'est quand même inquiétant et préoccupant, pas à cause de la pub, mais vraiment ce message que la CAQ n'a pas changé, que c'est le même gouvernement. Mme Fréchette va devoir travailler très fort pour garder son momentum. Puis j'ai l'impression que les annonces d'hier, TVQ, immatriculation...
C'est ce que j'allais dire. Moi, dans ma tête, je trouvais qu'elle faisait différent de François Legault. S'en est parlant en ondes, on était d'accord là-dessus. Puis je suis convaincu qu'on est encore d'accord sur... Là, hier, là... Je revoyais échec par la bosse.
Ben, c'est ce que ça a rappelé.
Puis là,
à
j'ai
plein
fait
de monde.
Oh my God, on est à la même place. On s'en va en élection. On se fait donner un petit chèque pour voter pour notre bonne CAQ qui va prendre soin de nous autres. Ah, le cœur m'a levé.
Mais ouais, c'est qu'on a donné un chèque hier. C'est littéralement
ben oui.
ça. C'est 100$ pour des
C'est juste qu'au lieu d'envoyer un chèque par la poste,
c'est un versement dans le compte.
C'est ça. T'sais, on l'a saupoudré dans un petit 50 en immatriculation, un petit peu de TVQ là.
Puis c'est de la com' politique. Le but, c'est de donner l'impression. Regardez, je vous remets de l'argent dans votre portefeuille. Vous vous en rendrez pas compte, là. Mais je vous en remets dans votre portefeuille. La troisième mesure qui a été annoncée hier, c'est celle avec le crédit solidarité. C'est une bonne mesure, honnêtement.
Ah, ça, c'est clair.
Qui touche quand même pas mal de gens, c'est des montants plus substantiels. Et le crédit solidarité, c'est une bonne manière de procéder. Ce n'est pas des mesures qui sont inflationnistes comme telles. Mais disons qu'on a atteint 33 % de la cible hier avec ouais. les annonces de Mme Fréchette. C'est correct, le coût de la vie, là, mais il y a plein de belles autres choses qui sont sous le radar en ce moment. J'ai l'impression que c'était pas nécessaire
en
de
effet,
faire ça.
Pas du tout.
Puis ça a raté la cible. Puis une des affaires qui a attiré l'attention dans les dernières semaines, ben le projet de loi Gabi-Renault qui est un projet de loi transpartisan. Et là, on a un autre projet de loi sur le radar avec les boissons oui. énergisantes qui devraient aller chercher l'unanimité des
Exactement.
Parties.
Comment tu trouves ça, toi, qu'on les nomme par un nom? Moi, j'aime ça parce que je trouve que, premièrement, c'est mettre en mémoire ou en lumière une personne, justement, qui a amené une problématique de société. Puis pour moi, ça me parle plus.
Ouais.
Le projet de loi 9, ça me parle pas. Le projet de loi Gabi-Renault, ça me parle en tabarouette. Jogger, c'est beau, violence conjugale.
De toute façon, tu sais, ça me fait rire, parce que moi, dans ma bulle, on appelle les projets de loi par leur numéro, puis tu sais, faut nous rappeler à l'ordre, des fois,
oui.
en ondes, là, tu sais, on dit... Les...
Exactement.
Puis, en plus d'humaniser, ben ça donne un peu de sens à la mort de quelqu'un. Ça ne va pas ramener la personne, mais vous savez comment c'est important quand on a un proche qui est décédé, d'avoir l'impression qu'il y a un sens là-dedans et que les gens se sont mis en action, qu'on veut vraiment que ça n'arrive plus. Ça ne va pas ramener le fils des parents de Zacharie Miron, mais ils vont avoir l'impression que sa mort n'a pas été en vain. Peut-être qu'il y a d'autres vies qui vont être sauvées par la suite.
Ben écoute, c'est à beaucoup plus petite échelle parce qu'on s'entend, c'est pas un projet de loi, mais moi, j'ai parti un fonds philanthropique à la mémoire de mon amie Catherine. Puis c'est ce que sa mère me dit. Elle dit, quand on fait des actions avec le fonds philanthropique, ben je me dis que Catherine est encore là ou Catherine n'a pas passé sur terre pour rien. Donc.
Ça, c'est un baume sur le cœur des proches, ça, c'est sûr. Puis aussi, ben, humaniser les projets de loi et les politiques, je pense que c'est toujours bon. Parce que des fois, on se perd en partisanerie puis en politicaerie. Mm-hmm. Mais quand il y a un nom qui est relié à un enjeu, je pense que ça permet de garder les yeux sur le fort.
En effet.
D'avoir les yeux sur l'objectif puis de se rappeler qu'il y a des gens en arrière de ça. Donc, juste rappel, tantôt Mathias a mis la table là, un projet de loi pour interdire la vente de boissons énergétiques ou énergisantes, là, dépendamment comment
ouais.
vous appelez. Pour les jeunes de moins de 16 ans, la santé publique recommandait plusieurs mesures, mais effectivement, il reste très peu de temps à la session parlementaire. Donc, la mesure la plus, j'ai envie de dire, structurante, là, ce qui aurait l'effet le plus rapidement, ferait l'objet d'un projet de loi. Et est-ce qu'on va avoir assez de temps d'ici la fin de la session pour l'adopter?
Mais est-ce qu'on serait... Puis là, je te pose la question, parce qu'on peut modifier un projet de loi, même une fois qu'il est adopté là, par des amendements. Est-ce qu'on serait mieux d'attendre puis de faire de quoi de plus complet puis d'inclure d'autres notions, d'autres recommandations de la santé publique dans le projet de loi directement puis, mettons, dire on fait ça prochaine session parlementaire?
L'idéal, c'est pas de faire les affaires à toute vitesse.
Ben,
on
c'est
est
ça.
D'accord. Par contre, tu peux préparer ton projet de loi de manière à ce que ce soit un premier bloc sur lequel... en essayant de voir venir là, pour qu'on puisse rajouter des blocs un peu plus tard, c'est-à-dire après l'élection, si les partis veulent continuer. On a tardé, hein, parce que ça fait longtemps. C'est un reportage d'enquête là, que... Écoute, ça fait des mois là, que ce reportage
ben
était
oui.
sorti. Le jeune Zacharie Miron, 15 ans, qui prenait du bifantin, là, un médicament contre le qui vient gérer le TDAH. Les pharmaciens ne donnaient pas assez d'avertissements, les médecins non plus, les boissons sont accessibles. C'est pas quelque chose qui était connu du grand public non plus. Moi, honnêtement, je l'ai appris avec la mort de Zacharie.
Moi aussi.
Je pense que c'est le cas de pas mal tout le monde.
C'est ça. Donc, il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Il y a probablement d'autres actions qui vont devoir être mises de l'avant. Mais moi, je pense que d'adopter juste déjà l'interdiction pendant qu'il y a un momentum, parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer que interdire des produits à certains groupes de la population, là, on est tous d'accord, là. Mais il y a des gens qui vont être en désaccord avec ça.
Non, c'est clair. Je termine ce sujet-là en te posant la question. Est-ce qu'on est rendu au Québec à revoir ces âges-là pour les mineurs? Puis je m'explique. je peux décider de changer de sexe à 14 ans. Là, je ne pourrais pas boire de boisson énergisante à 16. L'âge du consentement sexuel, c'est 16. L'âge pour l'alcool puis le pot, c'est 18.
Ouais.
On est-tu rendu à uniformiser un petit peu plus que d'avoir plein d'âges différents pour chacun des problèmes?
C'est tout un débat que tu amènes. Moi, je ne suis pas d'accord que uniformiser la solution nécessairement.
Mm-hmm.
L'âge de 14 ans pour le consentement médical...
Oui, consentement médical, c'est vrai.
Ça, c'est
moi, ça, je trouve ça bien trop jeune.
Bien, c'est jeune, mais en même temps, ça venait répondre à un enjeu où c'est beaucoup la question de la santé reproductive. Hein?
Ouais, c'est vrai.
Parce que les filles sont fertiles à partir de 12 ans. Et c'est pas toutes les jeunes filles qui sont à l'aise avec leurs parents, c'est pas tous les parents qui permettent à leurs jeunes filles de prendre des contraceptifs. Bon, vous connaissez, vous savez comme moi que
ouais.
c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués. Mais là, c'est tout le consentement médical à 14 ans.
Ouais, en effet.
Et là, t'amènes l'enjeu des changements de sexe. Bon. Quand on parle de ça, il y a des médecins qui nous disent « c'est pas vrai que les enfants changent de sexe à 14 ans. » Là, c'est des cas qui sont extrêmement rares, etc., etc. Mais je pense que c'est effectivement des débats qui sont importants. Puis ça évolue dans le temps, la maturité et l'âge. Hein?
Mm-hmm.
Tu sais, moi, je suis partie de chez nous, j'avais 18 ans. Ça faisait longtemps, tabarouette, que je m'occupais de moi tout seul.
Ouais, ouais.
Mes gars... pas sûr ça va être ça non plus. Mm-hmm. Puis gaufille, est-ce que c'est pareil? C'est intéressant. Le fin mot de l'histoire avec les boissons énergisantes, c'est que c'est pas un produit qui est essentiel. On est d'accord?
Non, exactement.
Comme des pilules contraceptives, mettons.
T'as raison.
Je pense qu'on peut très bien s'en passer. On a fait grand cas l'année passée quand on a interdit les cellulaires en classe. Hein. Ça a fait beaucoup
Puis
jaser.
Finalement, ce n'est que du positif.
Écoute, je pense qu'on va très bien s'habituer à ça.
Ben, moi, en tout cas, mon gars qui est au secondaire, là, c'est comme... ben, c'est parfait. On jase, on a du fun, puis that's it.
Mais tu sais, de toute façon, je vois mal comment défendre... oui, un jeune de 14 ans devrait prendre des boissons énergisantes, même si les parents sont consentants... Tu sais, dans le sens, c'est pas l'idéal. Là.
Ouais, mais
c'est pas
attends,
l'idéal, mais le McDo, c'est pas bon pour la santé non,
non
plus.
Non,
là,
sûr.
C'est sûr que...
Attends, Marie-Ève nous écrit, vous seriez surpris des nombreux spotheads de parents. Puis là, le marquant de parenthèse du responsable, et je suis d'accord. Fâché qui crie liberté que j'ai
ouais,
vu contre
ça.
Cette interdiction mais... des Red Bull.
Encore le
mouvement...
gouvernement.
Liberté!
Non, mais c'est qu'il y a peut-être aussi un problème d'éducation au sein de notre société. Là, je serais intéressé de voir le nombre d'adultes
ben oui.
qui en prennent dans le tapis aussi, puis que pour eux autres, c'est pas
en
problématique.
Effet.
Ah, puis regarde, je vais à l'hôpital souvent, moi, pour mes problèmes de santé, puis des gens dans des chaises roulantes devant l'hôpital qui fument des cigarettes,
ben, c'est
qui sont obèses. Ce débat-là, c'est pas évident, mais je pense
raison.
Qu'une chose est claire. Des jeunes de moins de 16 ans, ça peut vraiment se passer de boissons énergisantes.
Normalement, il y a assez d'énergie.
Oui, puis ça a des liens avec autre chose. Anxiété, les problématiques de sommeil.
Oui.
Donc, faisons-le.
Ah oui. Puis juste pour terminer sur le cellulaire, là, vous le savez, dimanche, je suis allé avec Edouard puis à la Pocatière pour un tournoi de flag football. Là. C'est tous des gars qui se sont parlé dans un corridor pour se dire « Hey, on se porte une équipe de flag foot. » Puis là, qui sont sur le terrain, puis qui s'envoient promener en joke, puis qui ont bien du fun, puis qui jouent au flag football. Sais-tu, je me dis, s'il y avait eu le cellulaire, peut-être qu'ils auraient tous eu leur face dans le cellulaire.
Absolument. Moi, je veux qu'on m'interdise le cellulaire. Dans certains endroits.
Ah, moi aussi.
Je suis quasiment triste de ne pas être jeune. Je suis dépendante de mon cellulaire,
ben, moi,
être bien honnête. Je voudrais des lieux sans cellulaire. Genre,
ouais.
Je sais pas, des restaurants sans cellulaire.
Non, mais c'est vrai. Moi, d'ailleurs, merci à ma blonde Val qui m'a fait reconnaître que j'avais beaucoup trop souvent mon cellulaire dans les
ouais.
mains.
Tu travailles beaucoup, faut dire. Là. T'es
oui.
comme 24 heures sur 24 sur le téléphone
en effet.
Avec ta job.
Mais si je peux prendre un temps, des fois, pour ne pas l'avoir dans mes mains.
Genre la nuit ou l'heure du souper, mettons.
Ouais! C'est vrai, c'est un bon moment.
Puis, le mettre sur ne pas déranger, c'est une bonne solution, mais moi, c'est rendu que quand je le mets sur ne pas déranger...
Tu vas le chercher.
Ben, je fais presque de l'anxiété à savoir. Là,
parce que quand tu vas le rallumer...
Ben, c'est ça, là,
ouais.
Y a-tu des choses importantes qu'on m'écran... Non, mais pour de vrai, y a une certaine... C'est dur d'arrêter maintenant avec les cellulaires, tu sais...
Il est trop tard pour nous. Rabattons-nous
c'est
sur
ça.
Les jeunes.
C'est ça. Et hey, toi, le jeune, t'auras pas de cellulaire avant 21.
Non, puis ils vont se dire, c'est pas juste... Hey, sérieusement, là, c'est vraiment pour votre bien. J'aurais aimé ça qu'on fasse
ben oui.
ça avec moi. Il nous reste un peu de temps pour parler
hey,
de ce qui
nous
se passe en Alberta.
Il nous reste un certain, puis on le prend, parce
okay.
que justement, je voulais faire un parallèle avec le liberté.
Liberté.
Les Albertains, ils veulent leur liberté du Canada.
Ah.
Mais là, Mark Carney se met le nez là-dedans.
Ah oh, oui.
La question, hey, cette fameuse question référendaire, je vous la lis, elle est incroyable. L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit entamer le processus juridique prévu par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit se séparer du Canada? C'est super simple de demander oui ou non, hein?
Ouais.
Ça, c'est trop compliqué, je veux dire. Mais là, fais-nous un résumé, parce que honnêtement, j'en ai perdu un peu le fil là, au cours des dernières semaines. Là. T'es, pourquoi Mark Carney se mettant le nez là-dedans? C'est-tu dangereux? Qu'est-ce que ça va amener? Fais-nous un bon résumé.
On revient un peu en arrière. La semaine passée, Danielle Smith a annoncé qu'il y aurait une consultation et la question que tu as dévoilée serait la question.
C'est ça.
Le problème, on en parlait un petit peu hier pendant tes nouvelles, Mathias, c'est que c'est une question qui demande aux gens s'ils veulent être questionnés. Dans le fond, on ne dit pas est-ce que l'Alberta devrait se séparer du Canada, oui ou non. On dit est-ce que soit l'Alberta resterait dans le Canada ou voulez-vous qu'il y ait un référendum?
C'est ça. Puis là, après ça, si les gens disent on veut un référendum, bien là, on va poser la question.
Peut-être. Peut-être parce que la Cour a débouté. Hein. Déjà, il y a des enjeux, des obstacles dans le processus. La Cour a dit au gouvernement Smith que parce qu'il faut le dire, c'est des initiatives populaires en ce moment.
Oui.
C'est très différent du Québec. Il y a des pétitions qui circulent.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de parti politique qui dit « Moi, je suis pour la souveraineté de l'Alberta ».
Non. Le Parti conservateur uni de Danielle Smith qui souffle le chaud et le froid et les autres qui sont contre.
Ouais.
Donc, là, la Cour a dit « Vous respectez pas, votre processus ne fonctionne pas parce que vous ne respectez pas les droits de consultation des Autochtones. » Ça, c'est un premier obstacle qui est sur la route. Donc, Danielle Smith n'a pas le droit de faire un référendum maintenant avec une vraie question sur la sécession de l'Alberta. Mais en même temps, elle a des pétitions, des centaines de milliers de personnes en Alberta qui demandent un référendum sur la question.
Mm-hmm.
Donc, est arrivée avec une espèce de compromis où on coupe la poire en deux. En politique, ce genre d'affaires-là, là, ça fait plaisir à personne. Fait que tout le monde finit par te huer quand tu arrives avec ce genre de
parce que là, les pro-Canada disent « Pourquoi tu protèges pas notre Canada? » Puis les pro-souveraineté disent « Voyons, non, tu nous questionnes même pas sa souveraineté. »
On a promis qu'on ferait un référendum, faisons-le. Donc, tout le monde est un peu mécontent par cette situation-là. Puis tu le disais, c'est pas un parti politique qui est séparatiste, le parti de Danielle Smith. Elle s'est pas fait élire là-dessus. Elle dit être à l'écoute des gens qui veulent se séparer du Canada et les comprendre parce que le fédéral, pendant les années Trudeau, a tellement été épouvantable avec l'Alberta. Puis là, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a un sentiment d'aliénation dans les prairies par rapport à ce qu'ils appellent un peu le pouvoir de l'establishment plus ontarien.
Oui.
OK? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Et elle se sert de ça pour aller chercher des gains auprès du fédéral. Elle dit, écoutez, là, moi, là, je vais vous les contrôler, là, mes séparatistes, là, mais il faut que tu me donnes des choses.
Donnez-moi mon pipeline.
Donnez-moi mon pipeline, enlevez les lois environnementales.
Exactement, donnez-moi le droit de polluer davantage, etc. Puis là, mon oncle Mark, avec sa cape de super Canada héros, il a fait, voici tout ce que je te donne, Danielle, tout ce que tu demandes.
Il en a donné, là.
Je te le donne. Et là, pendant ce temps-là, Stephen Guilbeault, ben, il fait comme je faisais tantôt pour aller voir le technicien. Hey, Mark!
Bye-bye! Et pourquoi Stephen Guilbeault, ancien ministre de l'Environnement, restait dans le caucus? Je pense qu'il y avait la préoccupation, Stephen Guilbeault, de ne pas nuire à la majorité quand même du parti pour lequel il a travaillé pendant de nombreuses années. Mais là, il commence à être tanné, j'ai l'impression. Il y a eu aussi une lettre qui a été transmise dans les dernières semaines, avant de rendre publique l'entente entre le fédéral et l'Alberta sur un pipeline, de plusieurs députés qui s'inquiètent que les politiques environnementales du Parti libéral s'en vont dans les vidanges. Ils ont travaillé pendant des années d'un bord, puis là, on s'en va complètement de l'autre côté. Donc, il y a du mécontentement au sein même du caucus de Mark Carney. Donc, ça y fait pas mal d'affaires à gérer en même temps, avec une menace de référendum aussi au Québec.
Oui, bien sûr.
Dans le jus, notre Marky Mark.
Mais ces députés-là du gouvernement libéral qui sont comme surpris que Mark Carney ne prenne pas des mesures environnementalistes, ils l'ont-tu écouté dans la dernière campagne? Je suis le seul qui n'est pas surpris de ça, que me semble c'était quand même clair qu'on voulait développer des oléoducs, que l'environnement n'allait pas nécessairement être une priorité.
Je sais pas, parce que quand pendant 10 ans, un parti a eu certaines positions en environnement et tout à coup, on prend complètement un virage parce qu'il y a un nouveau chef, oui, il y a quand même quelque chose d'un peu surprenant là-dedans. La deuxième chose, c'est que c'est normal que les partis... Un parti, ça regroupe beaucoup de gens, surtout un parti fédéral comme le Parti libéral du Canada. Et c'est normal aussi de vouloir influencer à l'interne ton parti politique. Il y a des débats là, à l'interne des partis politiques.
C'est clair.
Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Puis après ça, ben, tu décides si tu es solidaire de la décision ou si tu sacs ton camp. C'est la décision devant laquelle Stephen Guilbeault Guilbeault se retrouve présentement. Puis c'est sûr que la situation dans laquelle il était, où il critiquait publiquement son propre gouvernement, ça ne peut pas durer éternellement. Là,
non, c'est ça. Donc, normalement, si on écoute la rumeur, devrait lever les feuilles d'ici la fin de la semaine.
À moins qu'il fasse du Daniel Smith. À moins que lui aussi dise, je sais pas, peut-être je vais me séparer du Parti libéral du Canada, mais ça dépend, là, ça dépend ouais. ce qui se passe là, dans les prochaines semaines.
Donc là, ma dernière question que j'ai pour toi, c'est, ils vont-tu le faire finalement? C'était le 19 octobre, leur fameuse question.
Normalement, oui.
Puis qu'est-ce que ça... Tu sais, en quoi ça va venir influencer ce qui se passe au Québec? Mm-hmm. Parce qu'au Québec, on s'est voté une loi contre la loi de la clarté référendaire du fédéral. Fait que nous autres, on serait pas trop touchés par ça. C'est
ben
ça que je comprends?
Hey, j'ai vu ce matin un article qui citait Stéphane Dion, le père oui. de la loi, qui ben disait, oui. d'après moi, la loi s'appliquera pas en Alberta. Fait que déjà, ça, c'est comme une petite surprise
ben
qui arrive.
Oui.
Parce qu'il dit la question des Albertains ne touche pas, demande rien au fédéral. Donc là, la loi couvrirait pas nécessairement la question des Albertains. Le référendum devrait avoir lieu, mais c'est un peu du niaisage.
Ben oh oui.
Va-t-il avoir un référendum ou pas? Daniel Smith gagne du temps. De quoi ça a l'air les sondages en ce moment en Alberta? C'est 67 % dans les derniers sondages des gens qui veulent rester. Donc, là, c'est l'option stay. Eux autres ne sont pas oui puis non, c'est stay or leave. 30 % leave, donc pour que l'Alberta se sépare. Quand on regarde les allégeances politiques des gens qui répondent, quand ils sont libéraux, mettons, ils votent libéral au fédéral,
ouais.
99 % votent non.
OK, eux autres, c'est Canada first.
Alors que les conservateurs, c'est vraiment 50-50.
Et là, Danielle Smith est une conservateure.
Et elle veut rester dans le Canada, dit-elle.
Mais
fait
là...
Elle joue là, avec des
ouais,
éléments chimiques. Là, je ne sais pas comment ça va finir, cette
ouais, affaire-là. Oui, mais pour de vrai, là, si je suis Danielle Smith, 48-48, là, je regarde ça et je me dis, crème, vas-tu devenir souverainiste un jour?
Ben moi, si j'étais Danielle Smith, je me demanderais comment ça va se terminer.
Oui.
Il faut que tu saches, quand tu pars dans un avion de chasse, il faut que tu saches c'est où ta piste d'atterrissage, là.
Ou si j'étais Daniel Smith, je ferais peut-être, je regarderais en haut et je dirais « Ah, il me semble que Pierre Poilievre, il n'est pas trop sécure. Peut-être que je pourrais me sauver là. »
Peut-être, mais écoute, moi, je te dis, là, je sors ma boule
Elle va se planter avec ça, Daniel Smith.
Ça va mal
Ah oui, elle va se planter avec
elle.
Ça.
Parce que souffler le chaud puis le froid, puis ménager la chèvre et le chou, puis couper des poires en deux, là.
Non.
Ça marche un bout, puis à un moment donné, tu pognes ton Waterloo.
Je suis tellement d'accord, puis je vais conclure ça avec, justement, le Québec, s'il y a bien une chose que je trouve très positif chez Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que tu le sais qu'il souffrera pas le chaud puis le froid.
Il souffre juste du chaud, lui.
Lui, il y va. Il fonce, puis il dit, c'est comme ça, ça va être un référendum, les seuils de l'immigration, c'est comme ça. Puis quand vraiment qu'il y aura un rapport de gens du Oui Québec, m'encolline.
Hey, je veux rajouter quelque chose là-dessus.
Vas-y donc.
Parce que Michel David, dans Le Devoir ce matin, me rappelait que j'avais oublié cette affaire-là. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon avait signé lui-même un rapport
oui,
en 2016.
Oui, 2017, oui.
Ouais, c'est
ben,
il l'a fait, il l'a préparé en 2016.
2016, il l'a signé en 2017.
Et dans lequel il arrivait à peu près à la même conclusion que le rapport des Oui Québec.
Oui.
Donc, Michel David, ce matin, disait c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sorti trop fort, puis que c'est les militants qui ont été envoyés au front.
C'est ça, exactement. Il s'est limité à des commentaires aujourd'hui de dire « J'ai lu le rapport, mais on est très méthodique au PQ et on va continuer. »
Il en prend acte.
Oui, il en prend acte. Bon, une tablette, là, en d'autres termes.
Un autre rapport sur une autre tablette.
Exactement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur. On se parle demain. Le caucus avec Antonine Iaccarini. De midi à midi 30, on a fait un petit extra encore une fois aujourd'hui. On avait plein de discussions intéressantes. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à réagir via le 418-971-1021. Je retiens Rénal qui dit « Hey, là, on va t'arrêter de niaiser. Là. Voulez-vous qu'on regarde la possibilité de se séparer, oui ou non? » Rénal, je suis d'accord avec toi. Dans un instant, Boulevard 101, on parle de sport avec Alex Laramé. On fait un bloc news avec Mathias Turcotte. Puis on va parler également de problèmes de circulation à Québec. Il y a plusieurs projets qui pourraient voir le jour. Donc, c'est le tour d'actualité qu'on fait pour vous dans quelques instants. Boulevard 101, l'émission On en jase.
On en jase à Boulevard 101.
Boulevard 101.
Vraiment plaisant de vous lire au 418-971-1021. Continuez à nous écrire. On adore avoir vos interactions. Hey, vendredi, mon cher Mathias, on va voir Gab Marino qui va venir nous voir aux alentours de 13h30. Gab va animer la soirée au centre Vidéotron, si vous voulez y aller, 12$ pour le cinquième match entre les Hurricanes de la Caroline et nos Canadiens de Montréal. Hey, gars, je m'embarque dans le Ben Wagon.
T'arrêtes pas, hein, Jeff?
J'arrête pas, c'est nos Canadiens.
Là, chers auditeurs, aidez-moi, s'il vous plaît. Jeff, depuis qu'il a embarqué dans le train canadien, on a perdu les deux matchs.
Les auditeurs m'ont dit tout à l'heure de demeurer dans le train du Canadien.
Là, je plaide ma cause. On y retourne pour un round 2. Faut convaincre Jeff de débarquer du train. Il nous porte madeur. Au 418-971-1021, s'il vous plaît, soyez en grand nombre pour convaincre Jeff de débarquer de ce train-là.
Oui ou non, je redeviens haters ou je demeure un Canadien. Hugo qui me traite de traître.
Donc, non, mais regarde, Hugo, il est avec moi, débarque du train.
C'est ça, continuez d'écrire au 418-971-1021. Non, mais on va regarder pour ça. Et également, ce vendredi, ce samedi, au parc Jean-Drapeau à Montréal, c'est Luke Combs qui va être là. Et Gab Marino va aller voir le spectacle de samedi, justement. Gab, c'est l'expert en New Country ici pour le Claire Communication. Donc, vous pouvez l'entendre régulièrement, justement, à Weekend Radio, dans les retours avec Matt Marcotte. Voyons, c'est Sylvie. Hey, j'ai un blâme de mort. Sylvie Goulet. Hey, elle serait pas fière de moi. Et Nathan Meilleur. Donc, c'est à ne pas manquer vendredi 13h30. À la météo aujourd'hui, c'est des possibilités d'orages violents tard cet après-midi. Il risque d'avoir des pannes de courant, les amis. Ça sera pas facile sur la route pour revenir. Donc, soyez très prudents. Et ça va se poursuivre ce soir et cette nuit également. Donc, des vents qui peuvent aller jusqu'à 40-50 km/h. On parle de 10 à 15 mm de pluie. Mais le problème, c'est que par secteur, Mathias, si je ne me trompe pas, c'est que ça va tomber genre en 5-10 minutes. Là. Ça va être...
D'un coup.
Ah oui, ça va être foudroyant. Comme une bonne mise en échec de Taylor Hall sur Lane Hutton.
Parce que présentement, on regarde dehors puis il fait beau. Là.
Oui.
Beau ciel bleu. On a une belle journée depuis le début... Puis le début de la journée, fait que ça va être vraiment d'un coup le calme avant la tempête.
Ah, vraiment, puis c'est très humide. Demain, c'est 30% de possibilité d'averse, c'est 20 degrés. La pluie va se réinstaller jeudi et vendredi avec des températures vraiment plus basses, même à plus long terme, samedi. On parle de 12 degrés jeudi, 14 vendredi et 13 samedi. Vous avez un haut-parleur intelligent à la maison? Vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Ah, ici, on me dit reste assis dans le train. Un fan du Canadien va me donner raison. Le but d'Alain Côté était pas bon. Oh là, Jérôme, là. Là, tu fixes dans mes souvenirs de Nordique que le but d'Alain Côté était bon en crime. C'est Carey Fraser qui s'est trompé. On a vu la reprise vidéo dans ce temps-là.
On rembarque d'un vieil chicane.
Ouais, d'un vieil chicane. Mathias, justement, avant qu'on aille se chicaner sur le Canadien et les Hurricanes, la Caroline, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité?
Oui, je commence avec une histoire assez macabre. François Bouchard qui a plaidé coupable à des accusations de meurtre au second degré. Ça s'est passé en septembre 2023. C'est le meurtre de Santiago Gaona. En gros, le meurtre a été effectué entre le 8 et le 16 septembre 2023. L'homme de 33 ans qui a déclaré avoir égorgé sa victime, ensuite découpé en morceaux dans son sous-sol. On a transporté le corps vers Québec pour ensuite déchiqueter. Vraiment toute une histoire macabre. Là, l'homme qui sera condamné à prison à vie, bien évidemment. La ministre de la Santé a affirmé être incapable de confirmer si oui ou non dossier santé numérique va être déployé dans tous les établissements du Québec. Vous avez bien entendu, le dossier santé numérique qui
donc
a coûté
excessivement
cher.
Donc là, on fait ça à Trois-Rivières et à Montréal, mais ça se peut qu'on l'ait jamais à Québec, comme temps.
Ben, Québec, je pourrais pas dire, là, mais le projet pilote, justement, qui a lieu en ce moment du côté du CIUS du nord de l'île de Montréal, de la Mauricie, centre du Québec, se passe plutôt bien, selon la ministre actuellement. Par contre, elle dit qu'il ne faut pas nécessairement imposer un modèle unique qui va avoir une évaluation menée par Santé Québec. On a donné l'exemple de l'hôpital Général Juif de Montréal qui utilise une technologie différente de celle d'Epic Systems puis qui marche bien pour le moment de ce qu'on comprend. Donc, pour elle, ce serait prématuré d'annoncer l'arrivée d'autres solutions technologiques, mais on ne ferme pas nécessairement la porte à ce que le dossier santé numérique ne soit pas déployé dans tous les hôpitaux du Québec uniformément. Là.
C'est spécial. Ouais, hein?
C'est bizarre, surtout considérant l'argent qu'on a mis en place, plusieurs milliards de dollars là, pour mettre
J'ose
en place ça.
J'ose espérer que ça va être partout. En tout cas, j'ai peut-être des objectifs trop ambitieux, me direz-vous. Mais
on devrait avoir plus de détails au cours des prochaines heures, prochains jours à propos de ça. Steven Guilbeault qui envisage démissionner du caucus libéral, là, c'est rien d'étonnant. C'est sources. Ben c'est ça. Ça s'en venait un peu malaisant de devoir bâcher son propre gouvernement sans cesse à la télé, surtout en lien avec des décisions environnementales. C'est quatre sources du côté de CTV News qui ont soutenu la nouvelle. Là, on dit que la décision n'est pas prise à 100%, mais que ce ne serait pas étonnant de voir l'élu devenir indépendant. Et ce, dès cette semaine, là, je vous rappelle, Steven Guilbeault, qui était ancien ministre de l'Environnement, qui a été ministre sous le nouveau gouvernement Carney. On a ensuite claqué la porte pour devenir simplement député. Puis on pourrait tout simplement quitter le caucus. Ça a été officialisé ce matin, mais on le savait depuis hier, en fait, depuis en fin de semaine, Éric Duhaime, qui va être candidat dans Bellechasse pour le Parti conservateur. D'ailleurs, le lancement de la campagne électorale du Parti conservateur d'Éric Duhaime comme candidat se fera demain soir du côté de Bellechasse entre 18h et 21h. Et je termine avec le gouvernement Fréchette qui étudie présentement un projet de loi qui interdirait les boissons énergisantes pour les 16 ans et moins. C'est ce qu'a appris Radio-Canada. Lundi prochain, les différents partis vont devoir s'entretenir pour oui ou non donner leur feu vert à ce fameux à cet éventuel projet de loi-là. Si ça se fait, on pourrait être en mesure d'adopter le projet de loi en question qu'on nommerait la loi Zachary Miron, le jeune de 15 ans qui est malheureusement décédé en janvier 2024. On pourrait être capable d'ici la fin de la session parlementaire si tous les partis sont d'accord.
Ça s'est produit tard hier soir au Centre Bell. Attends, il parle avec Alex Laramé immédiatement, notre chroniqueur sportif. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme, un peu fatigué là, après le match d'hier, ben mais oui. On est là aujourd'hui.
Alex, mon chanceux, tu étais au Centre Bell hier.
Ben oui, j'ai eu la chance d'être invité par notre patron, Nicolas Leclerc. Et j'ai pu être au match. Là. C'est une expérience à vivre, honnêtement. Là. Si vous avez la chance, là, je vous le conseille fortement.
Étant maintenant un partisan du Canadien, c'est clair que je veux déménager à Montréal pour être invité par le patron à un match du Canadien. Toi,
pourquoi
Mathias?
Ben, je dirais pas non plus.
On pourrait échanger nos places. Là. Benoît Dutrisac vient à Boulevard, puis nous, on s'en va au 99.5 Montréal. Non, blague à part, Alex, toi, on peut parler de cette bévue de Lane Hutson en prolongation, mais je pense qu'il faut bien plus parler du faible 12 lancé du Canadien de Montréal dans ce match-là. Ça fait deux matchs que les Hurricanes remportent en prolongation, mais ça fait deux matchs, on ne se le cachera pas, dominés par les Hurricanes de la Caroline.
Ouais, pour moi, c'est vraiment ça l'histoire du match. Là. Oui, les deux matchs se sont terminés en prolongation, mais c'est pratiquement un miracle là, que le Canadien ait réussi à se rendre là. En fait, c'est un miracle qui s'appelle Jakub Dobesh, qui encore une fois est l'homme du match. Mais oui, quand on regarde le nombre de tirs final, 12 tirs, tu peux pas gagner dans l'autre match. Tu peux pas gagner en ayant aussi peu de tirs. Puis au-delà du nombre de tirs, on a de la misère à sortir de notre zone. Mm-hmm. On a de la misère à rentrer dans la zone des Hurricanes. On est incapable de s'installer dans la zone des Hurricanes. Tandis qu'eux, ils sont capables de nous embouteiller des fois pendant une minute et demie. Vraiment, le rouleau compresseur des Hurricanes commence à faire mal aux Canadiens, qu'il faut le dire. Commence à ralentir un peu aussi avec le nombre de matchs assez difficiles là, qu'on a disputés depuis le début.
En effet, hier en deuxième période, à un certain moment donné, c'était le trio de Logan Stankoven sur la patinoire avec Gus Tebbear et Nikishin comme défenseurs. Et les Hurricanes ont réussi à tourner dans la zone du Canadien et à changer leurs cinq joueurs à tour de rôle. C'était complètement capoté. Tu as parlé de fatigue. En effet, je pense que c'est un facteur à ne pas négliger, mais je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que le Canadien joue trop avec finesse en zone offensive? On met pas assez de rondelles derrière les défenseurs? Je comprends là, que des fois, tu vas avoir des lancers que tu te dis « je marquerai pas de but, mais il faut faire travailler le gardien, il faut envoyer des rondelles sur les jambières. » Ça manque présentement au Canadien. Mathias, qu'est-ce que tu en penses?
J'ai pas le choix de te donner raison, puis j'ai envie de te dire qu'on a joué de même toute la saison. C'est pas de quoi qui est nouveau. Là. Le Canadien, on tire pas au filet. Ça a été ça toute la saison.
Ben, dans les séries jusqu'à présent, dans les 17 matchs, le Canadien n'a jamais eu l'avantage dans les tirs au but.
Puis c'est comme ça qu'on joue, puis c'est comme ça qu'on a gagné beaucoup de matchs aussi cette saison. Par contre, à un moment donné, quand tu affrontes une équipe qui te ferme autant le jeu, il faut que tu ailles un ajustement, il faut que tu sois capable de créer de la vitesse, d'envoyer des rondelles derrière, de récupérer des rondelles en fond de zone. Tu peux pas te dire « ma formule a marché toute la saison, je vais la garder même si elle marche pas contre cette équipe-là ». Il faut qu'il y ait des ajustements. Puis j'avais espoir qu'il y en ait dans la partie d'hier du côté du Canadien. Visiblement, offensivement, on n'a pas été capable d'apporter des ajustements nécessaires. Comme tu l'as dit, Jeff, on se faisait bloquer encore une fois à la ligne bleue des Hurricanes. Ouais. On n'était pas capable de créer de la vitesse en entrée de zone. C'est pas pour rien qu'Anderson, c'est le seul joueur qui se démarque depuis le début de la série. C'est le seul qui envoie la rondelle dans le fond.
Mais t'as raison, parce que quand les défenseurs vous bloquent à la ligne bleue, comme les Hurricanes font, et les attaquants se replient très rapidement, ben t'as pas le choix. Si tu veux pas être pris dans ce goulon d'étranglement-là entre les défenseurs et les attaquants, faut que tu mettes la rondelle profonde pis t'ailles la chercher.
Faut que t'as mettre profonde pis faut que tu crées de la vitesse pour aller la chercher. On n'est pas capable.
Non, le premier but du Canadien, d'ailleurs, hier, c'est ça. C'est Demidov qui gagne une bataille derrière le filet avec Gostebeer et qui remet à Mike Matheson. Alex, tu fais quoi si c'est Martin Saint-Louis? T'essayes-tu d'insérer un Brendan Gallagher pour te donner un peu d'énergie? T'en remets-tu Dak avec Bolduc pis Texier? Tu sépares-tu le premier trio, tu sais? Comment tu joues ça? Parce que là, t'as pas le choix. Il faut que tu donnes une petite étincelle à ton équipe. Là.
Ouais, moi, je suis totalement d'accord parce que, oui, on a dominé la première période du premier match, mais même si puis on a très bien joué en troisième, mais la deuxième avait été dominée. Tu sais, au final, les Hurricanes ont dominé l'ensemble de la série. Donc, oui, moi aussi, je suis Martin Saint-Louis. Définitivement, en plus, le match numéro 4 est à Montréal. J'y vais avec un Brendan Gallagher, je l'insère. Quitte à jouer 6-7 minutes, là, mais il va aller se mettre devant le filet, il va déranger. Puis il va aussi amener une énergie de la foule. C'est sûr que ça pourrait être un de ses derniers matchs là, à Montréal, dans l'uniforme du Canadien. Donc oui, moi, je l'insérerais. Puis il faut absolument défaire la paire Strouble-Hudson. Strouble est une nuisance pour Hudson. Il l'empêche de s'épanouir. Il faut remodeler nos paires en défense. Puis au niveau de l'attaque, je serais pas contre non plus. Là, on parlait justement de la vitesse en entrée de zone. C'est la game du premier trio. On veut rentrer avec la rondelle, mais là, on n'est pas capable. Puis si on la met dans le fond, ben le seul qui est capable vraiment d'aller chercher la rondelle en fond de territoire, c'est Juraj Slafkovský. Puis là, on voit qu'il n'est pas à 100% depuis quand même un petit moment. Donc, faut essayer de bouger ça. Est-ce qu'on ramène Anderson sur un premier trio? Newhook joue bien. On peut le garder avec Demidov. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre au centre? T'sais, il va falloir... un peu brasser la soupe là, du côté de Martin Saint-Louis parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas.
Vraiment, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre quelqu'un de plus offensif avec Demidov et Newhook. Je regarde un Kirby Dak qui a bien fait depuis le début des séries au centre pourrait faire ceci. Puis moi, vraiment, j'en mettrais Anderson avec Suzuki. Et là, choisis Slafkovský ou Caulfield si tu veux. Mais hier, c'est arrivé à une présence sur la patinoire qu'Anderson s'est retrouvé avec Suzuki et Slafkovský parce que Caulfield s'était fait frapper solidement. Puis on a eu deux chances de marquer du côté du Canadien.
Ouais, ça peut être une autre option à envisager. C'est juste que, tu sais, des gros joueurs dans le Canadien, on n'en a pas beaucoup. Donc, idéalement, tu essaies d'en avoir un au moins sur chaque ligne. Fait que là, c'est ça. Ça va être un peu de jouer à la chaise musicale du côté de Martin Saint-Louis. Il faut dire que depuis le début des séries, lorsqu'il a pris des décisions, ça lui a souri. Fait que je vais lui faire confiance, mais selon moi, Gallagher puis Strouble Hudson, c'est impératif qu'on doit bouger ça.
Mathias, tu fais quoi, toi, comme changement?
Pour de vrai, le premier trio, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un changement. Suzuki fait tout sur ce trio là en ce moment. Là. C'est lui qui crée offensivement, c'est lui qui est bon dans la zone défensive. Présentement, là,
c'est lui qui est doublé, donc c'est lui qui est pris avec ça.
Oui, non, c'est ça. Le premier trio, pour vrai, c'est Nick Suzuki. C'est le seul qui est capable de contrôler la rondelle. Est-ce que c'est d'amener un Anderson? Est-ce que c'est d'amener un Demidov qui pourra beaucoup plus contrôler la rondelle puis calmer le jeu en zone offensive, ce qu'on semble pas capable de faire du premier trio? Peut-être, mais une chose est sûre, il faut brasser les cartes. Pour moi, Suzuki, Caulfield, tu les laisses ensemble. Peut-être descendre Slafkovský avec Newhook, Demidov, monter Anderson, mettre Evans avec Dano, Texier. Ça pourrait être une option. Tu bouges tes trois premiers trios, puis tu gardes ta quatrième ligne qui, pour moi, fait un travail très difficile depuis le début des séries. Oui. Depuis le début de cette série-là, là, Bodzuk, Dak, puis là, c'était Veleno hier, c'était correct, mais Kapanen, c'était pas facile. Ce trio-là, pour moi... ça me dérange pas qu'on les laisse à la quatrième trio puis qu'on les embarque le moins possible, là, parce que c'est pas facile dans les derniers matchs.
J'aime Ben qui dit on ramène Patrick Laine par texto. Je passerai pas mon Ben qu'on va ramener Pat.
Max Larouche l'a proposé tantôt. Lui, c'était son gros rêve de voir ça. Patrick Laine en avantage numérique, absolument rien faire. Là,
non, c'était... c'est ça. Non, ça va être bon. On n'a pas besoin de Patrick Laine à Montréal. On se transporte dans l'autre série parce que c'est ce soir, 20h, c'est sur les ondes de TVA Sport que l'Avalanche du Colorado visite les Golden Knights de Vegas, à voir comment l'Avalanche est amochée, comment Carter Hart garde les filets. D'après moi, le balayage se complète ce soir. T'en penses quoi, Alex Laramin?
Ouais, tu sais, on en a parlé un peu hier, mais de la manière que le match numéro 3 s'est fini, l'Avalanche qui avait une avance de 3-0 qui se fait remonter, ça c'est le clou dans le cercueil, là. MacKinnon, on sait pas s'il va être disponible, il est définitivement pas à 100%, Nichushkin, Makar est blessé. C'est plate à dire, c'est un super beau club, Colorado, c'était les favoris pour remporter la coupe, mais c'est là qu'on voit que ça joue sur la glace. Puis les Golden Knights ont un air d'aller. Non, moi aussi, je pense que ça se finit ce soir, là.
Yes.
Victoire sans équivoque de 5 à 2.
D'accord avec ceci, Mathias Turcotte?
Oui. Ben, peut-être aller chercher un match du côté du Colorado, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est trop peu, trop tard pour moi. Puis Vegas, c'est une équipe qu'on a eu tendance à sous-estimer depuis le début des séries. Moi, c'est mes gagnants de la Coupe Stanley. On a amené John Tortorella, qui fait une méchante bonne job en coaching depuis qu'il est là. Faut pas oublier que les Golden Knights, autant que c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, ils ont des excellents joueurs étoiles en Jack Eichel puis Mitch Marner. Se faire balayer pour le Colorado, c'est sûr que c'est un scénario qu'on veut éviter. Mais perdre contre les Golden Knights, il n'y a rien de gênant là. Je comprends que Colorado, c'est une équipe qui doit gagner la Coupe. Mais sans Cale Makar à 100%, c'est une brigade défensive qui est quand même pas si bonne que ça là, du côté de l'Avalanche.
Non, en effet. Donc, je crois vraiment que ça va être le balayage aussi ce soir, sans l'ombre d'un doute. Je termine le sport avec une petite note. Les Knicks de New York l'ont emporté hier 130-93 sur les Cavaliers de Cleveland. Ils se rendent en finale de la NBA pour la première fois depuis 1999, et leur dernier championnat remonte à 1973. C'était fête à New York hier. Vous n'avez pas vu les images à Times Square. On fêtait cette réalisation. Ça va être à suivre parce que c'est ce soir les Spurs de San Antonio qui affrontent le Thunder d'Oklahoma City, les champions défendants. C'est à Oklahoma City. C'est 2-2 dans la série. On a un spectacle incroyable dans cette série-là. Donc, ça va être à suivre. Alex Laramé, je te remercie beaucoup.
On se reparle demain.
On se parle demain pour le quatrième match canadien contre les Hurricanes. Est-ce que le Canadien va sortir de son marasme? Est-ce qu'on va réussir à trouver des pistes de
On
solution
espère.
Contre les Kings? On l'espère, c'est pas toujours facile. Mathieu, je te propose qu'on fasse une courte
Parfait.
Pause. Par la suite, on va parler avec Rémi Villemur. On va parler de Révolution tranquille. Puis on en profitera aussi pour parler des différentes nouvelles après Rémi de circulation ici à Québec. Ça te convient?
Yes, sir.
Good, on fait ça dans l'émission Nageur sur Boulevard 102. Il est exactement 13h11. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Je vous le rappelle, un meilleur moyen de nous écouter, blvd.fm. C'est notre web radio, BLVD 102.1. Notre application gratuite, téléchargez-la sur App Store et Google Play Store. Vous avez également la possibilité de nous écouter via votre haut-parleur intelligent en disant « Écoutez BLVD 102.1 ». Abonnez-vous également à notre page YouTube pour nous suivre un peu partout. Pour interagir avec nous, c'est le 418-971-1021. Et à titre de rappel, à la météo, c'est des orages violents pour fin d'après-midi, ce soir. Donc, soyez prudents sur la route. Ça va être une quinzaine de millimètres, mais qui va tomber très, très, très rapidement par secteur. Alors, des vents qui vont être violents. Soyez très, très, très prudents et peut-être que vous, malheureusement, vous allez perdre de l'électricité. Mathias, justement, circulation?
Oui, bien, je veux juste vous rappeler sur Avenue Taniata, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome, c'est présentement en travaux à hauteur de rue Sainte-Hélène, ce qui crée des gros ralentissements là, par choc à par choc des deux bords, mais surtout en direction sud. Donc, si vous avez à passer par là, que ce soit ce midi, cet après-midi ou même le matin, c'est un secteur à éviter au cours des prochaines semaines.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. On va rejoindre Rémi Villemur.
Non, jase. On en jase. Jase avec Rémi Villemur.
Boulevard 102.1.
Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h avec Jacinthe Varel. Chroniqueur avec nous les mardis et jeudis. Rémi, comment vas-tu?
Je vais très bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, on va commencer cette chronique en écoutant Paul Saint-Pierre Plamondon qui a réagi ce matin en point de presse concernant le fameux rapport de Oui Québec.
Faisons pas des parallèles, mais ce que je vous dis, c'est que je l'ai lu. On est confiant que ce qu'on présente de manière constante et responsable depuis 5 ans, a justement la capacité de rassembler puis de, d'être parfaitement raisonnable et responsable.
C'est bon pour la filière 13, là. Oui.
Je n'ai pas dit ça, je vous comprends. J'ai dit que je l'ai lu.
Vous l'avez lu, il vous dérange pas, là.
Quelle valeur vous accordez au rapport?
Ben, c'est-à-dire que c'est un rapport parmi d'autres. Puis, on en prend acte.
Souverainiste, est-ce que vous vous sentez interpellé par ce rapport-là qui s'adresse au mouvement souverainiste?
Mais comme je vous dis, on a été constant, on a une approche qui est responsable et qui rassemble de manière constante. Attendez-vous à ce qu'on continue, là, puis qu'on soit constant, justement, là. Donc, il va y avoir plein d'interlocuteurs, de rapports, on sait que...
Rémi, maudit PQ avec ses seuils d'immigration, puis sa laïcité. Réussiront jamais à faire la souveraineté?
Ouais, ben,
tu comprendras mon sarcasme?
je l'ai saisi tout à fait, mais je pense qu'il y a des gens qui ont oublié cette semaine qu'avant de faire la souveraineté, il faut prendre le pouvoir. Et en ce moment, le Parti québécois, et je dis en ce moment, mais ça fait 2 ans, en fait, ça fait même plus que 2 ans, le Parti québécois est toujours pressenti dans les sondages comme étant le parti qui le prendrait le pouvoir s'il y avait une élection demain matin. Donc, chaque chose en son temps, ça c'est une chose. Deuxièmement, j'ai trouvé, là, je n'avais pas entendu la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon jusqu'à présent. Je dois l'interpréter comme ça là, sur le qui-vive. Puis je la trouve très sage parce que quand il se fait demander s'il va prendre en considération le rapport, il ne dit pas non.
Exactement.
Il ne dit pas non. La réponse à donner, c'est oui. Même s'il y a beaucoup de gens au Parti québécois, pour leur avoir parlé, qui trouvent que ce rapport-là n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur parce que quand vous formulez quand vous mettez sur pied un rapport, quand vous rassemblez des données, vous faites appel à une méthodologie. Ça veut dire que vous travaillez d'une certaine façon. Puis de l'aveu même des gens qui sont derrière ce rapport-là, ça ne représente pas la société civile, ce qui est présenté là-dedans. Donc 64% des organismes présélectionnés, dites-vous, présélectionnés, là, vous sélectionnez vous-même des gens. Et vous leur garantissez la confidentialité, donc ils n'ont pas besoin d'être identifiés. Et là, ensuite, vous venez dire 64% de ces gens-là que nous avons sélectionnés, et je précise que nous, c'est Oui Québec, et on est marqué à gauche, très à gauche. Eh bien, 64% des gens à qui nous avons parlé et qui ne seront pas identifiés nous disent que le nationalisme... Vous recevez ça, vous dites... On parle de qui exactement? On parle de qui exactement? Qui nous dit ça s'ils ne veulent pas prendre la parole? Donc, il est très clément. Je le trouve bon joueur d'aller là où il était. Il n'avait peut-être pas besoin d'aller. C'est-à-dire que là, il dit, ben oui, on va en prendre note. C'est sage de sa part. Après, je note une chose. C'est de ça dont je voulais vous parler. Les souverainistes n'ont pas besoin d'ennemis. Ils ont déjà eux-mêmes.
C'est-à-dire, exactement.
Et ça, c'est incroyable, c'est modus operandi, ça fait 60 ans que ça dure. Les souverainistes tirent dans leur propre chaloupe. Ce rapport-là, là, si on lui donne un peu de valeur, okay? Mettons qu'on fait ça, là. Mettons qu'on donne ce cadeau-là, qu'on concède ça, ben, il n'aurait pas dû sortir. C'est les Oui Québec qui le mettent sur pied. Les Oui Québec, c'est un organisme qui veut rassembler, mais qui ne parvient jamais à le faire, parce que c'est un organisme qui vient dévorer dans la main des indépendantistes quand ils sont de droite, mais qui tend, eux, jamais la main. Et ça, je le sais pour une expérience très personnelle. Les Oui Québec, leur mission, c'est de promouvoir la souveraineté. Ben, si vous avez un rapport patenté qui laisse croire que ça ne va pas si bien que ça, pourquoi vous en faites la promotion exactement? On attendrait ça de la part des ennemis du camp souverainiste, mais ça vient des alliés.
Imagine. Est-ce qu'on le fait... Tout simplement par idéologie, tu l'as dit, Louis Québec est très à gauche, puis je vais faire un parallèle avec Québec solidaire, qui chicane à savoir c'est qui le meilleur souverainiste avec le PQ, et eux, ils prétendent que c'est eux parce qu'ils vont accueillir tout le monde dans la grande famille?
Ben, c'est à peu près ça, puis tu vois, le parallèle que tu fais, c'est quand même assez habile de ta part. En fait, il est tout à fait faisable, ce parallèle-là. QS et les Oui Québec, c'est fondé, là, je veux dire,
c'est ça.
C'est assez,
la même gang.
C'est assez uni. Là, c'est assez de connivence. Là, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'un bord comme de l'autre. Tu sais, on aurait pu ne même pas dire tout ce que j'ai dit depuis 3-4 minutes puis dire simplement ceci. La préoccupation des Oui Québec, c'est que le nationalisme tel qu'il est défendu par Paul Saint-Pierre Plamondon ne serait pas alléchant pour les gens dits de l'immigration. Mm-hmm. Ben, j'ai été regarder les chiffres dans les sondages pour le Parti québécois chez les allophones. et ils sont supérieurs à ceux de qui? De Québec solidaire.
Exactement. Donc,
enfin, c'est quand même assez drôle d'avoir l'élève en avant qui a les moins bonnes notes de la classe, qui dit au meilleur de la classe, regardez, c'est comme ça qu'on va se rendre, on va finir par résoudre le problème de mathématiques.
C'est ça, exactement. C'est l'élève à 8% d'un sondage qui dit, hey, tu veux prendre le pouvoir, faudrait que tu m'écoutes. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Rémi, il y a un gros débat autour de la révolution tranquille. Est-ce qu'on devrait faire une deuxième révolution tranquille au Québec? Il y a Joseph Facal, présentement, qui produit une série de textes dans les journaux de Québécois là-dessus. Ce matin, il y avait Antoine Robitaille dans sa chronique hebdomadaire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui disait... Non, on n'a pas besoin d'une deuxième révolution tranquille. Et il y a d'autres gens qui s'y intéressent, notamment Jean-François Lisée, avec son livre « Révolution tranquille au Québec » concernant ce qui s'est fait à l'époque, la sciure, la coupure qui s'est faite entre René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau. J'ai posé la question ce matin à Jean-François Lisée en entrevue dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Je te laisse entendre sa réponse. Elle est très, mais très intéressante.
Révolution tranquille, le changement qui a eu lieu entre 60 et 66, c'est comme si on changeait de planète, là. C'est-à-dire, le nombre de choses qui ont été changées en quelques années est énorme. Alors, je comprends qu'on dise une autre révolution tranquille parce qu'on a le souvenir de grands changements. Et c'est sûr que le Québec peut faire de grands changements. Mais c'est comme si, en 60, on avait inventé le feu. OK? Tellement c'était énorme. Alors, on n'invente pas le feu deux fois. Ben, on peut faire des choses. T'sais? Mais la révolution tranquille, c'est quelque chose qui ne peut pas se répéter. On ne peut pas faire un bon en avant historique sur le droit des travailleurs, le droit des femmes, inventer la Caisse de dépôt, inventer Hydro-Québec, tout ça en 5 ans, c'est pas quelque chose qu'on fait deux fois dans l'histoire d'un peuple.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une révolution comme on ne verra jamais, juste à prendre toutes les considérations, les actions, la mise en place de grands projets de société qui ont été faits durant la Révolution tranquille. Mais n'empêche, Rémi, que je trouve quand même qu'en 2026, on est dans un tournant. Il faut vraiment revoir notre façon de gérer le Québec et notre façon de faire notre société. Je vais juste prendre, par exemple, les seuils d'immigration. Est-ce que je suis dans le champ, selon toi?
Non, mais un mot d'abord là, sur ce qu'a dit Jean-François Lisée puis ce qu'a écrit Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal ce matin. Il y a deux esprits que je respecte vraiment entièrement.
Ah, moi aussi.
Je suis pas d'accord avec eux dans la mesure où, effectivement, tu ne peux pas refaire la révolution tranquille si le projet, c'est de la refaire comme elle a été faite la première fois. Mais je veux dire, c'est pas ça le projet
non. Qui
est présenté par certaines autres personnes. Il y a des gens qui voudraient la faire à l'envers, la révolution tranquille. Et là, je ne parle que du point de vue de l'État. Donc, mm-hmm. Je ne parle pas, par exemple, des droits des femmes. Là, c'est un autre point de vue complètement parce que la révolution tranquille, c'est plus que la question de l'État. Mais moi, je veux vous parler de la question de l'État. Oui, si l'État a été construit à partir des années 60, effectivement, tu ne peux pas faire une révolution tranquille pour le rebâtir une deuxième fois. Mais ce que Joseph Facal écrit depuis quelques jours dans le Journal de Montréal, c'est que la deuxième révolution tranquille, en regardant l'État, ça consisterait à lui imposer un régime minceur. C'est-à-dire que...
En effet.
Jusque dans les années 50, les Canadiens français n'avaient pas d'État. Donc, ils voulaient occuper une plus grande place dans le pouvoir économique, mais ça, c'était une lutte à mener. Et ils se sont donné un État fort avec des programmes sociaux, avec une forte bureaucratie, beaucoup d'emplois ont été développés là-dedans. Et c'était pour assumer le pouvoir des Canadiens français. Ensuite, on a construit la société québécoise à laquelle s'est mêlée des populations qui sont issues de l'étranger. Bon, bref. Aujourd'hui, ce modèle-là, je pense qu'il est rendu au bout de sa route. On a transformé une société qui était faite de rêveurs, de coureurs des bois. Hein, on vient de là-bas. Hein? Je veux dire, on a ça dans notre sang. On était des coureurs des bois. On n'attendait pas après la règle de ci, la règle de ça. Ah oui, il y avait l'Église. Mais il faut lire les travaux, les mm-hmm. historiens. On ne les écoutait pas tout le temps, les curés. Mais l'État, par contre, on ne réfléchit qu'à travers son prisme. Un entrepreneur qui veut se partir une business aujourd'hui, son premier réflexe, c'est quoi? Et je ne le plains et je ne le critique pas, soit dit en passant. Ça s'est inscrit presque dans sa façon d'être. Il va chercher une subvention. Il va chercher une subvention. Il y a des programmes de développement d'entreprise, des ci, des ça, des ci, subventions, tatati, tatata. En ce moment, on a qui? On a le ministre J'ai oublié son nom de famille, mais il disait la semaine dernière qu'il allait payer des entreprises pour engager des jeunes. Puis il dit, mais attends, mais on vit dans un monde à l'envers.
C'est Mathieu
Alors,
Lévesque.
Donc, on vit. Moi, ce monde-là, je pense que c'est M. Simard.
Non, c'est Jean-François Simard, c'est vrai. Exactement. Ouais. On va payer jusqu'au salaire minimum, jusqu'à concurrence du salaire minimum à 16,60 pour 50% du salaire d'un jeune.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est rendu partout. Et il est rendu nulle part d'une certaine façon, et il est rendu aussi trop loin, le tout en même temps. Donc, un projet de révolution tranquille, ce serait de donner plus de pouvoir aux individus, de faire en sorte que les individus s'émancipent. À nouveau, j'ai envie de dire, parce qu'ils se sont émancipés à travers un État québécois, mais là, l'État les a rendus, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, pantouflards, en attente de ça, en attente d'un règlement, en attente de la bureaucratie, en attente... Et ça, ben, ça nous immobilise, ça ne nous fait pas avancer.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois sur deux pans, un peu cette deuxième révolution tranquille. Et j'aime bien Dominique Partexo qui nous dit on pourrait la nommer réflexion tranquille, en effet, parce qu'on réfléchit à refaire réflexion et action, là, parce qu'on veut refaire le modèle. Mais moi, je le vois vraiment, moi, je trouve vraiment que la quête identitaire, la laïcité, les seuils d'immigration, la francisation, nos valeurs, je trouve que ça fait partie de cette révolution-là. Et vraiment, je le vois dans l'exploitation de nos richesses naturelles aussi, parce que si on veut continuer à se doter de programmes sociaux, bien, il va falloir développer de la richesse. Puis si on veut donner davantage de liberté à nos entreprises, il faut développer notre richesse naturelle également. Es-tu d'accord avec ça?
Oui, puis j'invite les gens à porter attention. À chaque fois qu'on parle avec un grand groupe de personnes, là, donc plusieurs points de vue sont entendus, il y a au moins une personne autour de la table qui finit par dire « Moi, là, j'ai de la misère avec... » Le fait d'être fier d'être Québécois, il me semble qu'on n'a pas fait grand-chose depuis longtemps. Il me semble qu'on est toujours deuxième. Il me semble que c'est long, Québec. Ben, la Révolution tranquille 2.0, ça pourrait s'attaquer à ce sentiment-là qui est en réalité pas juste une impression, c'est fondé sur le réel. Ces gens-là ont raison de dire que ça n'avance pas au Québec. C'est compliqué de développer des entreprises. Qu'il y a des règles partout, qu'il y a de la bureaucratie, que c'est long, que c'est... Regardez, le 7
ben
fois...
Oui.
Le prix est vu dans la transition numérique. C'est quoi ces maudites niaiseries? L'État n'est pas capable de faire son travail.
Je suis très, très, très d'accord avec toi, Rémi Villemur. Hey Rémi, toujours un plaisir de te parler. Un bonheur. On se reparle jeudi. Je crois qu'on avait perdu Rémi. Alors, c'est pas grave. On mettait fin, justement, à la discussion. Mathias, il se passe beaucoup de choses au niveau circulation à Québec. On parle de l'autoroute Félix-Leclerc qu'on ferait. On parle du pont-étagement à Le Bourgneuf. On va parler de radars, maintenant, qui vont être disponibles. Puis à Lévis, on parle de voies réservées renforcées. Ben, OK, on va informer nos gens là-dessus au retour de la pause. Ça te convient?
Yes, sir.
Good. Vous êtes à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1. 13h31 minutes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Va suivre le retour de Denis Gravel avec Audrey et Véro de 14 à 18h. Et à 18h, c'est Marceau le soir qui sera disponible pour vous. Et on remet ça demain matin avec Marceau le matin à compter de 6h et le point de max à 10h. Hey, on a un beau texto qui vient de rentrer. Oui, pour des radars en zone résidentielle, ainsi prendre ceux qui ne respectent même pas leur propre quartier. Ça, c'est vrai.
Ouais.
Ça, c'est vrai que les gens dans leur propre quartier roulent trop vite. Les parents autour des écoles roulent trop vite parce qu'ils sont pressés. Je me souviens qu'à l'école primaire des garçons, le comité de parents en lien avec le service policier avait fait plein. Il n'y avait pas eu de contravention de données. C'était de la sensibilisation. Et 82% des gens qui dépassaient la limite permise qui aurait même pu avoir un ticket parce qu'il était au-dessus de 35 dans la zone de 30, c'est des parents qui ne portaient rien à l'école.
Mais c'est parce que c'est eux autres qui circulent là la majorité du temps, surtout sur les heures où il faut le plus respecter ces limites-là là, dans les zones scolaires. C'est des heures où que l'école débute, les heures du midi, ou encore des heures où l'école finit. Mm-hmm. C'est souvent des parents qui circulent trop rapidement, que c'est... La vie, entre guillemets, de leurs propres enfants qui peuvent mettre à risque en circulant trop rapidement.
Clairement.
Ces mêmes parents-là demandent par la suite qu'on mette plus de régulation. C'est qu'il faut gérer soi-même. Puis à un moment donné, si on ne gère pas soi-même, ben c'est correct qu'il y ait d'autres affaires qui soient mises en place pour nous gérer.
Oui. 418-971-102, vous en pensez quoi? Moi, là, les radars, honnêtement, sur l'autoroute, là.
Oui.
Ça me fait ni chaud ni froid. Je vais te donner un exemple. Là. Celui dans l'échangeur pour aller prendre Pont-de-Québec, Pont-Pierre-Laporte, quand tu arrives de Lévis, pour aller en direction ouais. nord. À quoi ça change? Je fais 2-3 voies de large, puis là, il faut que tu réduises à 100. Je comprends pas trop. Même principe ici sur Félix Leclerc. Là, quand tu descends, tu passes en dessous du viaduc proche d'Henri Bourassa. Bon, je le comprends pas trop. Celui, par contre, sur l'autoroute Dufresne, qui, où il y a eu justement la mort avec Éric Légaré, le chauffeur, là, justement, le chauffeur, qui a tué 4 personnes. Lui, je le comprends, il faut que tu ralentisses à cet endroit-là. Il y a une lumière, tout ça. Je serais d'accord, même chose pour Charest. Mais cela dit, là, dans les quartiers résidentiels, à proximité des écoles, là, hey, mets-moi des radars partout. Je vais être le premier heureux parce que, surtout à ce temps-ci de l'année, là, les vélos sont recommencés, les enfants se promènent dans les rues. Faut assurer la sécurité. Vous en pensez quoi, vous? 418-971-1021. Ça prendrait-tu plus de radars en zone résidentielle et en zone scolaire?
Puis là, tu me nommes les radars sur les autoroutes qui sont les radars fixes. En ce moment, il y en a 30 au Québec au complet, mm-hmm. des radars fixes. Là, ce qu'on nous apprenait ce matin dans Radio-Canada, c'est qu'en ce moment, il y a 22 radars mobiles utilisés en rotation un peu partout au Québec. Dans les 2 prochaines années, on va venir rajouter 66 radars photo mobiles. Donc, on va venir quadrupler le nombre de radars photo mobiles qu'on va avoir à disposition à grandeur de la province. Fait qu'on le veuille ou pas, au cours des 2 prochaines années, on va avoir plus de radars. Puis là, certaines personnes... Je prends notamment les zones de construction parce que ça revient... C'est souvent à ça, je pense, qui
hey, mais qui ça, c'est bon. Ouais, mais les zones de construction, c'est bon parce qu'il y a des travailleurs qui sont tués ouais. à chaque année. Puis moi, mon père, il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, quand il refaisait Laurentien en direction sud, hey, pogné un radar, zone de construction, j'avais pas vu le radar. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu ralentisses dans une zone de construction, t'as pas le choix. Ça, faut faire très attention. Et d'ailleurs, moi, mea culpa, l'autre jour, je suis passé à côté d'une zone de construction sur le boulevard Louis XIV. J'étais dans ma tête, c'était le matin. Je devais rouler à Maton à 55 sur le boulevard à 50. Mais je suis passé proche des cônes. Puis j'ai un travailleur de la construction qui m'a fait signe, hey, relax. Puis j'ai fait, crème, c'est bien trop vrai. Faut que je passe là à 25-30. Je veux dire, je suis pas meilleur que les autres. Là. Ça m'arrive de faire des erreurs sur la route aussi. Mais il y avait raison, la personne de la construction, de me faire signe. Hey man, relax, t'es proche de nous autres en crime. Là.
Mais toi, si t'avais eu un radar faux, un radar mobile installé là dans ta zone de construction en étant inattentif, t'aurais eu une amende salée en maudit.
J'aurais eu une amende salée, mais sais-tu quoi? Ça a augmenté.
Ça aurait été
le frais.
Ta responsabilité.
Oui, puis ça aurait fait en sorte que je serais devenu plus attentif. Tu sais, c'était comme les premières zones de construction que je croisais de l'année. Là. Fait que dans ma bulle le matin, elle me dit OK, one show, on fait telle affaire, papapapac. Pense pas à ça, mais j'aurais pu frapper un travailleur de la route. Faut que je sois plus vigilant.
Ouais, puis tu sais, en même temps, c'est annoncé d'avance beaucoup. Les radars sont tous annoncés plusieurs kilomètres avant. Tu sais qu'ils vont être là. Sauf que dans. Moi, des zones de construction, tu vois, j'ai un certain problème quand c'est. Le radar, il est là le soir. Puis là, tu sais, c'est le soir, tu vois moins bien. Puis il ouais. y a certaines zones de construction que la route n'est pas nécessairement changée. Pendant la soirée, on déplace les cônes, on replace la route. Moi, les radars qui sont là dans des zones de construction. Inchangé, que quand il n'y a pas de travailleurs, ouais. ça crée pas de problème. J'ai comme un peu un malaise en pleine
mais
nuit avec ça.
Je suis d'accord avec toi, faut que des travailleurs là, pour
mais
que ça vale
ça,
la peine.
Exact.
Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Guillaume qui mentionne, c'est le fun, les radars photos, c'est un peu une taxe volontaire. Ben, en effet, c'est un moyen de percevoir de l'argent. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours, un objectif de sécurité routière, mais comme je te disais en début de ligne, là, tu sais, moi, sur l'autoroute, je la vois moins, l'objectif de sécurité routière, dans les quartiers résidentiels, par
oui,
exemple. Pis, dans les zones de construction, là, je le vois beaucoup plus.
Je pense qu'il n'y a personne qui va s'opposer à ça, dire « Hey, on va mettre un radar. » On sait que telle zone scolaire, c'est, les personnes ont tendance à rouler vite. On va venir placer un photoradar pendant mm-hmm. une certaine période pour éviter ça. Ouais. Je vois pas grand monde qui s'opposerait
ben
à
non.
ça, honnêtement.
Parce que Guillaume est d'accord avec toi aussi. Il dit, hey, à la limite, il faut vraiment que tu veuilles te faire pogner sur l'autoroute. C'est tellement indiqué à l'avance. Là,
ah, puis si t'es attentif, c'est pas
oui.
petit non plus, un photoradar.
Il te le dit pratiquement 2 fois avant de te mettre les gros panneaux et vitesse avec le Kodak. Là. Parle-moi donc de l'autoroute Félix Leclerc, parce qu'on voudrait justement changer des choses, modifier les sorties, les entrées. Bref, que ça soit plus fluide, parce qu'en effet, moi, pour vivre à Beauport depuis un an, m'a dire une affaire, qu'on soit le mardi en heure de pointe ou le samedi après-midi, je roule à la même vitesse, c'est-à-dire 30 km heure.
Non, mais je trouve ça drôle, la capitale en plus, parce qu'on parle bien gros du pont, le troisième lien, pont à étagement. C'est comme si la capitale... C'est problématique, mais garde, tu sais ça.
C'est pas grave, ça a toujours été de
ouais,
même.
C'est ça,
mais, oui, t'as raison.
Il me semble que c'est bouché à longueur de journée, fin de semaine, semaine. Là, le ministère des Transports a annoncé que, justement, Capitale, pas mal au grand complet, va être étudié pour savoir qu'est-ce qui est problématique sur ce tronçon-là puis pourquoi c'est toujours bloqué. Là.
Ouais.
On parle d'un tronçon quand même qui a été construit dans les années 70.
Exactement.
Ça répond plus aux besoins
de
nos jours.
Là, ça s'est tellement développé à l'est de la ville, en plus. Là. Donc, le flot de circulation n'est plus du tout le même.
Donc, c'est une étude qui va à évaluer les impacts projetés des scénarios et variantes géométriques sur la circulation, valider et optimiser la fonctionnalité des scénarios et variantes et recommander le meilleur scénario. En gros, on va évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire puis qu'est-ce que chaque scénario fait pour choisir le meilleur. Mais une chose, c'est, si on commence à faire ça, on va l'avoir dans quoi, 30-40 ans? Bon,
ouais.
J'exagère, mais c'est pas pour tout de suite. Mais de voir qu'au moins, là, on prend comme conscience de la problématique parce qu'elle présente. Puis je pense que n'importe qui, n'importe quel auditeur qui apprend de Capitale en est conscient aussi.
Oui.
Faut faire de quoi là, pour Capitale aussi. C'est pas vrai que c'est juste un pont ou un pont à étagement qui va régler les problèmes de circulation. Capitale a besoin d'amour.
Oui, puis en même temps, j'aime qu'on prenne cette décision-là aussi au niveau idéologique. On entend beaucoup parler de mobilité active, de transport en commun, mais c'est bien aussi qu'on s'attarde là, présentement à la fluidité sur nos autoroutes. Il y a le pont à étagement, le Bourgneuf. C'est quoi le conseil de quartier, lui? Il croit pas pantoute?
Pas pantoute. Laissez-moi un instant, là. Là, c'est Christine Fréchette qui a comme promis le pont à étagement dans ses mesures pour le transport. Puis là, Jean-François Simard a même dit sur nos ondes dernièrement qu'il allait avoir au cours des prochaines semaines probablement une annonce reliée à ça. Mais là, du côté du conseil de quartier de Neuchâtel-Est-Bourgneuf là, qui ont été interrogés par le Journal de Québec, on ne croit pas du tout à ça. Là. On a dit que c'est plus, pour eux autres, c'est plus dans les cartons du gouvernement. On dit que Maxime Elmalet, conseiller municipal du secteur, a même dit que ça a été complètement mis de côté, que c'est même pas une possibilité que ça revienne. Là. Donc, j'ai hâte de voir au cours des prochaines semaines... On n'a pas d'air à avoir ben d'espoir, puis en même temps, on peut-tu les blâmer de pas avoir d'espoir alors que ce projet-là...
Ouais, écoute, ça date de 2010 facilement là, qu'on l'avait imaginé. Là.
Puis le même gouvernement qui le promet actuellement, c'est le même gouvernement qui l'ont reporté aussi.
Exactement. Donc, à voir, ça fera partie d'un crochet de Christine Fréchette dans ses 100 jours au pouvoir, parce que Jean-François Simard, la semaine dernière dans Marceau le matin, nous a dit ceci.
Là, vous me tendez une perche, puis je me mords les lèvres, puis la langue qui va avec, parce que je ne vais pas aller trop loin, mais c'est un dossier qui relève du ministère du Transport. Je suis très optimiste, très, très, très optimiste qu'on puisse annoncer quelque chose d'intéressant sous peu.
À suivre, mais honnêtement, c'est une annonce qui irait de soi. Là. Écoute, les problèmes de circulation là, au coin de Robert-Bourassa et du boulevard Le Bourgneuf sont juste hallucinants, que ce soit le matin ou le soir. Donc, faut vraiment régler la situation. Si on traverse de rive, le maire Blainé faisait une conférence de presse pré-conseil ce matin. Tu y as assisté et on a parlé des voies réservées parce qu'on en parlait également dans le quotidien Le Soleil aujourd'hui. Des voies réservées qui vont devenir plus réservées puis surtout plus claires pour la population.
Oui, en gros, on va réclamer entre autres l'élargissement des heures d'interdiction là, au conseil de ville aujourd'hui. Là. Que toutes les voies réservées soient réservées aux autobus de 6h à 9h30, puis de 14h30 à 18h30. On veut aussi venir uniformiser le nombre de personnes qu'on demande dans un véhicule pour circuler sur la voie réservée. Puis Steven Blainé expliquait cette décision-là en disant qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Là, je vous laisse entendre.
Alors, ce qu'on s'est rendu compte aux voies réservées, c'est qu'il y avait de la confusion. Justement, on parle de route des rivières. Trouver la logique. D'un côté, c'est trois personnes par automobile pour avoir accès à la voie réservée. De l'autre côté, c'est deux. Imaginez-vous l'automobiliste, là. Il va, il arrive, il y a trois personnes, il revient, deux. Écoute, là, ça vient un millimélo. Donc, le but de la mesure ce soir, c'est vraiment d'uniformiser l'encadrement de nos voies réservées.
C'est parfait, c'est une belle mesure, honnêtement. Stephen Blaineau aussi parlait du rôle foncier. Ça, je trouvais ça intéressant de le faire entendre pour nos auditeurs parce que on pense toujours que quand la valeur de notre maison monte, les taxes montent automatiquement, mais le taux de taxation est ajusté. Donc, on va écouter son explication, puis tu nous en parles après.
Je le rappelle, la Ville ne va pas chercher un sou de plus. C'est juste qu'on uniformise la collecte de fonds en fonction de la valeur des propriétés, de la valeur foncière. Donc, ça, c'est le constat de base. Maintenant, bien, je vous dirais qu'il fallait s'attendre dans une année d'évaluation avec des modifications importantes à un plus grand nombre de contestations. Voilà. Oui.
Parce que du côté, on a eu de nouvelles évaluations du rôle foncier du côté de Lévis. Ça se fait aux 3 mm-hmm. ans, puis c'est une augmentation en moyenne autour de 20 à 23 pour les différentes demeures un peu partout sur le territoire. Mais faut savoir, on a comme cette croyance-là que quand ta valeur augmente, ben forcément tes taxes augmentent. Mais si ta valeur augmente sur le prix moyen de l'augmentation, tes taxes ne vont pas augmenter.
Exactement.
Parce qu'on ajuste le niveau de taxe du côté de la ville proportionnellement à l'augmentation.
C'est ça. Fait que pour donner un exemple, si votre maison, par exemple, gagne en valeur de 28 % mais que c'est la moyenne, vous n'aurez pas d'augmentation de taxe parce qu'on vient changer le taux de taxation. Par exemple, si le taux de taxation était à 0,84, ben on va venir le changer, le mettre à 0,75.
Exact.
Bon, ça reste très technique, mais c'est ça. Par contre, si votre maison là, augmente de 52 % parce que vous êtes maintenant dans un secteur prisé, parce que vous avez fait des grosses rénovations, vous avez réinvesti,
là, t'es dans le trou.
Ben là, mais la taxe va augmenter.
C'est ça. C'est pour savoir à quel point ton augmentation de ta valeur va augmenter tes taxes aussi, il faut que tu te compares à moyenne d'augmentation. Si t'es bien au-dessus, mais tes taxes risquent d'augmenter beaucoup. Puis au contraire, si t'es en bas de la moyenne, même tu risques d'être moins taxé que tu l'étais avant.
Exactement.
Mais là, du côté de Lévis, c'est 550 demandes de révision du rôle foncier qui ont été envoyées. C'est plus que double que la dernière fois qu'on avait fait l'exercice. Puis dans un certain sens, c'est normal. Stephen Blaineau a expliqué que surtout les demeures sur le bord du fleuve ont augmenté beaucoup plus que le reste. Fait que quand t'as déjà une demeure qui vaut très, très cher,
exactement,
elle augmente de 45 %. Ça se peut que tu fasses un petit saut avec ta facture de taxe à la
c'est
fin
ça.
Du mois.
Mais généralement, puis si je veux bien l'expliquer en terminant aux gens, c'est que si votre maison croît selon la moyenne de valeur, c'est juste positif pour vous parce que quand vous avez décidé de la vendre, vous allez la vendre plus cher.
Ouais, exact. Mettons qu'on prend l'exemple de Lévis comme
ça.
Exemple. Une maison avec seulement un logement, c'est en moyenne 23 % d'augmentation. Si elle augmente à 23 % ta maison, tu ne vas pas augmenter
tes taxes.
La ville ajuste ses taxes avec ton augmentation.
Exactement. Merci Mathias pour cette précision. Dernière pause dans l'émission On en jase. Et on s'entretient avec Patrick Scalabrini, l'entraîneur des Capitales de Québec au retour. C'est le match d'ouverture ce soir au Stade Canac.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Toujours un bonheur de faire cette émission avec vous et avec Mathias Turcotte. C'est l'émission On en jase sur Boulevard 101. Un bonheur également d'écouter le retour de Gravel. Puis Mathias, tu vas être là dans le retour de Gravel. Tu es souvent là, justement, parce que tu es notre gars sur le terrain. Et là, tu vas nous parler de Bruno Marchand tout à l'heure.
Oui, Bruno Marchand qui a fait un scrum ce matin, justement. Il y avait une rencontre avec Wendy Tinan, qui est directrice de la ligne verte du train des G du côté de Calgary, qui nous parle de ce qu'il a retenu de cette rencontre-là, de ce qu'on va ajouter concernant le projet de tramway. Notamment, on a ciblé qu'on devait célébrer nos victoires. Là, c'était rapporté dans le Journal de Québec aujourd'hui. Et pas attendre seulement à 2033 avant de noter les points positifs que tout ça amène.
Alors, on va t'écouter dans le retour de Gravel avec un immense plaisir. Et demain, aux alentours de 16h30, ça sera le maire Bruno Marchand qui va venir s'installer en studio avec Denis et la belle gang d'Audrey et Véro. On va rejoindre l'entraîneur de baseball, le meilleur de la Ligue Frontière, Mathias, le meilleur qu'on a à Québec, Patrick Scalabrini, entraîneur des Capitales de Québec. Pat, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci toi-même.
Ça va super bien. Pat, fébrile pour ce match d'ouverture après 13 matchs sur la route?
Vraiment, vraiment. Écoute, on est parti, puis la toile, le dôme est encore sur le stade et encore de la neige. Donc, ça fait un bout qu'on est parti. On a hâte de partager, de vivre ça avec nos fans.
Mais, hey, Pat, tu me trompes-tu ou c'est un de vos meilleurs débuts de saison à l'étranger? Il me semble que vous reveniez toujours de ce voyage-là à 500 ou un peu en bas de 500. Mais là, 9 victoires, 4 revers, l'offensive a marché à plein régime. Tu dois être satisfait, pas à peu près.
Vraiment, écoute, mes attentes étaient ce que tu as dit. Là, j'espère revenir à 500, un petit peu au-dessus peut-être. Tu sais jamais trop comment on, tu vas t'en sortir, mais vraiment heureux. De, écoute, on est 9 et 4. On joue contre des bonnes équipes, contre nos rivaux et tout ça. On n'est pas parfait. Là, on a quelques petites faiblesses que j'ai, sur lesquelles il va falloir travailler, mais on commence à la maison, évidemment. On va être plus à la maison pour le reste de l'année là, avec ce départ-là. Fait que très heureux.
Oui, est-ce difficile de commencer une saison comme ça avec un gros voyage à l'étranger?
Ça l'est. Écoute, sauf que avec notre réalité là, où les camps d'entraînement sont difficiles à Québec avec la température et tout ça, j'haïs pas partir toute la gang ensemble, apprendre à se connaître, vivre ces moments-là tout le monde ensemble. Puis tu sais, j'aime mieux présenter à nos partisans un produit un petit peu plus fini que game 1 de la saison. C'est un peu une suite au camp d'entraînement, donc on est souvent un peu brouillon. Fait que j'aime mieux aller quand même jouer quelques matchs puis arriver devant nos fans un petit peu plus près pour offrir un meilleur spectacle.
Pat, il y a toujours des nouveaux joueurs qui nous épatent à Québec à chaque année parce que vous faites un recrutement extraordinaire. Et là, tu as Torin Montgomery et Chavez Young qui sont en feu avec leur bâton. Je suis allé vérifier, c'est des gars qui ont joué dans le calibre 2A. C'est des méchants bons joueurs.
Oui, c'est des gars qui ont des beaux résumés, des beaux CV. On était très excités à l'idée de les avoir cette année. C'est deux types différents. Là. C'est Chavez, c'est un gars des Bahamas qui est très volubile, très charismatique. Il danse sur le terrain, il chante tout le temps. Puis c'est un gars très talentueux. Je suis convaincu qu'il va être très apprécié par les partisans. Puis effectivement, il a joué jusque dans le 2A, même un peu dans le 3A. Torin Montgomery, c'est un gros premier but, un grand bonhomme qui va frapper avec puissance. Il frappe pour la moyenne en ce moment. Il est meneur de la Ligue à ce niveau-là. Donc, c'est deux gars que j'étais excité d'avoir. Puis j'ai hâte de voir là, à moyen long terme de quoi ils vont avoir l'air avec nous.
Comment ça s'est fait, justement, le mix entre ces nouveaux joueurs et les vétérans de l'équipe?
Bien, ça se fait encore. T'sais, c'est une des choses, une des raisons pour lesquelles j'aime bien partir sur la route. C'est que, justement, on apprend à se connaître. Cette année, on a plusieurs nouveaux visages. Donc, c'est beaucoup d'inconnus qui doivent apprendre à devenir une famille rapidement. Donc, ça va bien. On a parlé souvent depuis le camp, là, on a 10 différentes nationalités, différents langages. Les Japonais qui ne parlent que japonais, c'est un peu compliqué par bout, mais c'est des gens sympathiques qui veulent apprendre et qui veulent se mêler au groupe. Donc, ça se fait très bien, mais il demeure qu'il y a des défis là-dedans.
Les interprètes vont bien, j'imagine?
Ben oui, Shikara, celui des Japonais, il travaille très fort, c'est certain. On va retrouver notre Ray national aujourd'hui. Là. Il n'était pas avec nous, évidemment, mais côté espagnol, on s'en sort pas mal. Puis d'habitude, les joueurs espagnols s'expriment aussi un peu en anglais, là, à part notre Cubain qui arrive, en fait, que je vais rencontrer pour la première fois tout à l'heure.
Vous êtes de retour à domicile pour 3 matchs face à Sussex County. Par la suite, un week-end à Trois-Rivières et on revient au stade Canac pour 6 matchs. Donc, ça fait du bien d'être de retour dans la région.
Vraiment, vraiment, on a hâte. Comme je t'ai dit, là, il n'y a rien comme un match d'ouverture à la maison. Donc, ça va être excitant. Il va y avoir plein de gens, plein de surprises et tout ça. Donc, bien hâte à ce moment-là, puis d'être un petit peu dans nos affaires, dans nos pantoufles à Québec.
Cool! On vous souhaite énormément de monde au Stade Canac. Je vais aller faire un tour, Pat, et puis on souhaite beaucoup de succès. On va se reparler en cours de saison, c'est certain.
Fantastique. Merci pour votre temps.
Salut, Pat. Patrick Scalabrini, entraîneur-chef des Capitales de Québec. Ça ne pas manquer ce soir, mercredi et jeudi, au Stade Canac que ça se passe contre Sussex County. Et par la suite, ils sont de retour du 2 au 7 juin à domicile.
Juste vous rappeler, la Ville de Québec qui avait annoncé, il y a de cela quelques jours, là, les stationnements de l'ancienne centrale de police seront disponibles durant les soirs de match. Donc, c'est 200 places de stationnement. On sait que des fois, c'est difficile de s'en trouver dans
vraiment.
Ce secteur. Donc, si jamais vous avez plus, il n'y a plus de stationnement disponible au Parc Victoria, sachez que l'ancienne centrale de police peut vous accueillir les soirs de match des Capitales.
Allez, en grand nombre, encourager les Capitales comme à chaque année. Mathias Turcotte, merci beaucoup pour cette émission de radio. On se reparle demain midi.
Yes, sir. À demain, tout le monde.
Good. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci d'être sur les ondes de Boulevard 101.